sing for me sweet lullabies. Et bonsoir à tous, on est jeudi, on est jeudi, toujours du mal avec les jours, puis avec les heures et avec les années aussi, on est jeudi soir, je ne stream pas le matin en ce moment, je suis empêché de streamer le matin mais pour de bonnes raisons puisque j'ai le bonheur de passer la journée en tournage de questions pour un champion depuis hier et dans ces cas-là j'essaie de streamer le soir quand même histoire de ne pas être un streamer intermittent. Et de vous parler un petit peu des articles que j'ai lus malgré tout le matin et de vous parler un peu d'actualité, de nous donner cette petite dose d'actu qui nous fait du bien. Et puis deux, trois autres trucs, par exemple, là, je vais vous mettre à contribution ce soir, ouais, je vais vous faire travailler, ouais, je vais vous faire travailler, je vais vous faire travailler gratuitement, donc je vais vous exploiter à un moment, il faut dire les choses, parce que j'aimerais qu'on prépare un petit peu l'hebdo Étienne de demain, voilà. J'ai quatre invités, il y en a un qui a changé d'ailleurs. Puisque Manon Mella est là, c'était un peu souffrante, donc je l'ai remplacée pour qu'elle puisse se reposer. Et j'ai pas encore décidé des thèmes, des trois thèmes principaux d'actualité et des cartes blanches de nos invités. Mais j'ai pris quelques notes toute la semaine et je voulais un petit peu choisir, déterminer les thèmes avec vous ce soir, les thèmes qu'on abordera demain. En gros, il y a trois. Il y a sorti mais pas des pics, il dit les punaises de lit. Pourquoi pas? Trois thèmes principaux dans l'actu de la semaine, c'est pas beaucoup, hein, et quatre cartes blanches qui sont choisies par nos invités. Voilà. Je pensais à une invitée d'ailleurs qui me demandait s'il fallait qu'elle écrive quelque chose auquel elle n'aurait pas le temps. C'est Alison, mais j'ai pas eu le temps de répondre. J'avais quelques mails de boulot à traiter, mais je le ferai ce soir. Donc ce soir, la journée. Ce matin, on s'est levé. Vers 5h, on a lu les journaux, on est à la question pour un champion, on a tourné, on est revenu en courant tout à l'heure, ça fait du bien au corps, à la tête et à la planète, comme ça on n'émet pas de CO2, c'est cool. Petite douche, petit bisou aux enfants, et le petit stream qui va bien, on va essayer de parler un petit peu d'actualité des dernières 24 heures et puis des thèmes de l'émission de demain, et après, ce soir, je vais bosser un petit peu, je vais mettre ça au propre pour envoyer les petits teasings de l'émission des thèmes aux quatre invités, en leur donnant nos choix sur l'actu et sur les cartes blanches. Puis après, j'irai dormir un petit peu. Et demain, question pour un champion toute la journée. Et demain soir, l'hebdo Étienne avec vous à 20h. Alors, pour commencer, comment ça va vous? Anémone Prune, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Total Patate Akito, merci pour les soutiens. Pour commencer, on va d'abord parler de Manon et lui envoyer plein de force. Manon qui ne pourra pas être avec nous. Voilà, j'en suis un petit peu triste parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi. Donc Manon m'a envoyé un petit message hier soir en me disant qu'elle se sent... Ou non, ce matin en me disant qu'elle se sentait pas bien. Peut-être un petit Covid, je ne sais pas en tout cas. J'espère que ça n'est pas grave. Évidemment, je lui ai dit, mais Manon, il ne faut surtout pas te forcer. Il faut surtout que tu prennes soin de toi. Et donc j'ai dit à Manon de se reposer. Et je lui ai dit, je vais trouver quelqu'un pour te remplacer. Voilà. Il y a Yann qui dit je émets du CO2 quand tu cours. Ouais, mais peut-être moins qu'un bus, qu'une voiture, ou qu'une moto, ou qu'un hélicoptère, ou qu'un jet, parce que souvent je vais en jet à question pour un champion. Je me dis quand même que ça fait du bien à la planète. Et puis j'évite, en plus, je pète très peu et je rote très peu quand je cours, donc assez peu de CO2. Donc Manon ne sera pas là. Alison Wheeler, l'humoriste, la comédienne, sera avec nous pour la première fois. Maxil Dan, le streamer, sera avec nous pour la première fois. Marie Palot sera avec nous, comme souvent, c'est une habituée de l'émission. Et donc, quelqu'un va remplacer Manon, quelqu'un que j'ai calé, que j'ai prévenu au dernier moment. Et vous avez... Alors, c'est quelqu'un qui est déjà venu, c'est quelqu'un que vous aimez bien. À vous de deviner. À vous de deviner, on va commencer par ça, une petite devinette. À votre avis, qui vient? Je vous aide un petit peu. C'est un garçon. Ça n'est pas Thierry Moreau. Ça n'est pas Poulpe. Ça n'est pas Étoile. Ce n'est pas Arnaud qui est venu la semaine dernière. Poulpi en ce moment il est super busy, je l'invite tout le temps, mais il viendra dès qu'il peut. Pardon, je vais être vulgaire encore. Eh bien, ce n'est pas Jean Massier qui vient bientôt, qui vient la semaine d'après. Et quelqu'un a trouvé, c'est Tom Tompe 75 qui demande si on n'a pas deux sœurs. Thomas deux sœurs, exactement. Thomas deux sœurs sera avec nous. Il revient, il était là il y a trois semaines à moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Thomas, très gentiment, au pied levé, a accepté de remplacer Manon. Mais là, il faut que je fasse un nouveau visuel d'ailleurs pour donc remplacer Manon par Tom. Voilà, c'est sympa de sa part hein, quand même. Voilà, en vrai. Non, pas Virginie Fira. Non, j'aimerais beaucoup, mais voilà, c'est Tom. Vous m'excusez, j'ai un petit message de mon amoureuse que je n'ai pas croisé. Alors, hop. Oui, je suis... je viens de lancer un stream. Excusez-moi. De lancer un stream. Est avec Solal. Voilà. Voilà. Donc, c'est Thomas. Bon, faut que je fasse ce petit visuel. Super drôle, Thomas. Sans t'aimer pas les pieds, carrément d'accord. Est-ce que j'ai déjà recalé maintenant pour une prochaine émission? Bien sûr que je vais lui proposer une nouvelle émission, mais d'abord, je vais attendre qu'elle se repose un petit peu quand même. J'adore Marie Palot, me dit Oumaslan, ça tombe bien. Moi aussi. Donc, ça, c'est une première chose. C'est l'émission de demain. On va en parler. On va essayer de choisir un petit peu les trois thèmes principaux ensemble. Sinon, je viens de le tweeter. Bon, je vais vous montrer les tweets de la journée. Donc ça voilà, ça c'est l'humour de Daron, je ressemble à un petit crapaud écrasé sur cette photo, mais bon, c'est pas très grave. C'est une photo du décor d'une partie du décor de Noël de Question pour un champion, parce que nous sommes déjà à Question pour un champion en 2024. C'est un petit peu étrange, vous êtes en octobre 2023, je suis en janvier 2024. Dans Question pour un champion, on a un tout petit peu d'avance au niveau des enregistrements. J'ai fêté Noël déjà, moi, personnellement. Voilà, j'étais assez gâté, d'ailleurs, cette année. J'ai fêté le Nouvel An à tout le monde. Et là, comme vous le voyez sur cette photo, on est déjà bien lancé. D'où le petit tweet de ce matin. Nous, on est déjà Noël et vous, ça se passe comment en octobre? Mais quel humour! Mais quel humour! Mais quel humour! Merci Néron pour le soutien. Voilà. Donc, tu as vu les grands champions du jeu 2023 rejouer. Secret de fabrication, je ne dis pas. Voilà. Pourquoi en faire autant en avance? Alors ça, Tom, j'en ai aucune idée. C'est pas moi qui décide. Je ne suis qu'un exécutant. J'adore ce jeu. On me demande de faire le jeu. Je fais le jeu. Je vous rappelle, dimanche soir, ça va être un grand moment. Papy Sam, toujours à la découverte de l'univers du jeu vidéo. Et j'ai le bonheur de recevoir Sunday, cette fois, pour qu'elle me fasse découvrir, pas qu'elle me prenne littéralement par la main pour me faire découvrir le monde de World of Warcraft. Voilà, wow, avec Sunday, dimanche 20h. Il n'est pas beau ce petit visuel. Il n'est pas beau ce petit visuel. Regardez. Regardez comme ils sont. Regardez. Bon, évidemment, déjà, deux belles personnes. Enfin, une surtout à gauche. Le petit logo, ça me plaît, un peu gold. La petite manette verte. Regardez ces ombres menaçantes de guerriers au loin, là, cette montagne ou ce volcan, je ne sais pas. C'est beau, non? C'est beau? C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pour ça que c'est magnifique. C'est Pépipin, notre graphiste préféré. Voilà. Ça va être sympa. Hein. Clairement, t'es pas prêt, Samuel. Pierre-Yves, vous me dites ça à chaque nouveau vidéo. Vous m'avez dit ça pour Rocket League. J'ai cassé Rocket League en deux. Vous m'avez dit ça sur Mario Kart. J'ai battu Jiraya Mario Kart. Bon, enfin, en battle, Bobombe. Vous m'avez dit ça pour F1 23. Bon, là, c'est vrai que j'étais pas super bon. Vous m'avez dit ça pour Smash. Et je vous ai bluffé, non c'est pas vrai. Je suis nul à tout ça, mais qu'est-ce qu'on se marre. J'adore. Voilà, exactement, comme le dit Silta, ce n'est pas Samuel qui n'est pas prêt pour WoW, c'est World of Warcraft qui n'est pas prêt pour Samuel, exactement. Voilà. Comment ça? Non, c'est un univers que tu n'imagines même pas. Mais je suis un vieux truc, je suis un vieux machin, je suis plein d'expérience, je suis armé par l'expérience, par la sagesse. Voilà. Et donc, ça va être formidable. Ça va être formidable. Ah, ok, on a dû se croiser. Donc, des petits cœurs, mon amoureuse. Voilà. Mon premier feedback sur ces premiers set play, c'est le bonheur. C'est le bonheur, je me régale, chaque dimanche, quel bonheur, c'est censé être du travail, C'est censé être du travail, mais quel bonheur d'inviter une personne cool tous les dimanches à la maison pour découvrir un nouveau jeu vidéo. Et en plus, avec des explications, des conseils de quelqu'un qui maîtrise un petit peu, quoi. Donc, c'est le bonheur, voilà. Et donc, ça, c'est le prochain rendez-vous. C'est dimanche à 20h. Puisqu'on est sur les tweets de la journée, je viens de tweeter il y a quelques minutes. Ha 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 ! Tadam ! Tadadam ! C'est samedi, ça. C'est un stream. Je vais streamer tous les jours. Je suis épuisé. Sur la chaîne de Zach Nani, Ride Contest. Samedi 7 octobre sur la chaîne Twitch de Zach Nani à 13h, je crois que c'est 13h, 15h. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Sam sur un skate? Quoi? Est-ce que je suis un skater? Décidément, je suis beaucoup de choses. Et voici le tweet de l'ami Zach qui a été posté il y a 31 minutes précisément. Après le football, le MMA ou encore le tennis, nous dit Zach, il est temps de mettre un nouveau sport à l'honneur. Et j'ai l'occasion de le faire avec le skateboard au Palais de Tokyo. C'est magnifique, c'est à Paris. Pour l'ouverture du Toyota Wheel Park, accompagné de Monsieur Samuel Etienne. Pourquoi il m'appelle Monsieur Samuel Etienne? Tout le monde le sait que je suis plus près de l'EHPAD que du bac, quoi. Mais Monsieur Samuel Etienne, quand même, c'est super dur. Accompagné de Monsieur Samuel Etienne, nous reviendrons sur le parcours de nombreux athlètes qui nous montreront également l'étendue de leur talent lors d'un show. Je pourrais compter sur Manon Lanza et Joseph Garbaccio pour leur expertise en la matière. Un grand merci à France TV Sport, puisque l'équipe de Zach m'a expliqué que cet événement a été développé, produit, imaginé en développement avec France Télévisions, voilà, et Toyota France, qui manifestement est le sponsor de Zach sur ce truc. Je ne suis pas producteur ni coproducteur, je ne suis pas à l'origine de ce projet. C'est Zach qui m'a appelé en me demandant si je voulais bien l'accompagner. Pas vraiment en co-animateur, quoi. Pas en co-host, mais oui, un petit peu en co-animateur, voilà, pour poser mes petites questions, pour m'amuser avec lui, pour interroger les invités. Je ne connais absolument rien au monde du skateboard, mais jamais, voilà. Eh bien, j'ai toute la matinée de samedi matin pour bosser là-dessus, mais ça, je sais bosser un petit peu. Voilà, et puis on va laisser parler de la curiosité. Donc vous avez rendu samedi sur la chaîne de Zach, c'est à 13h, de 13h à 15h. Oui, bon conseil de Nico Manga, qui me dit: je te conseille, appelle un petit coup Jean Massy, il va tout expliquer, je sais que c'est un skater. C'est intéressant ce que dit Tony. Si un jour tu pouvais un dimanche faire un truc sur les jeux accessibles aux handicapés, je suis non-voyant. Et là, le 10 octobre, sort Forza Motorsport, vraiment adapté pour nous les aveugles. Ah, c'est cool. Un jeu de course, c'est énorme. Ça a l'air super, en vrai. Ok, je vais me pencher sur le sujet. Pourquoi le pauvre Zach en moment... J'ai pas la ref, il y a Renan qui dit le pauvre Zach en ce moment. Il lui arrive des misères ou pas? Qu'est-ce qui lui arrive à l'ami Zach? Ne me dites pas qu'il a des soucis. Bon, en tout cas, moi, je suis content de ce rendez-vous avec lui. Ah, vous me parlez du foot peut-être, non? C'est à cause de l'OL? Bah, bien sûr, je suis bête. Ouais, bah Lyon, on va pas très très fort. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas que le foot dans la vie. Ban Twitch. J'ai pris un... Il y a Hugo qui me dit ban Twitch. Hugo, j'ai eu un coup de fil te concernant, là, tu sais, sur ce dont on a parlé. Bon, je suis en plein enregistrement toute la journée, plus les streams du soir, donc je suis pas très réactif, mais j'ai bien reçu le... Il a pris un ban pour quoi, Zach? Courant de rien, comme d'habitude. Néron Ron, merci encore pour le 7e mois d'abonnement. Il s'est pris un strike, mais tout est rentré dans l'ordre. Il est unban. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Quoi, un truc de droit d'auteur de musique? T'es quoi? Qui a pas sa dos? À cause des droits de sport? Ah ouais, ça arrive. Ok, d'accord. Ok. Pour la Ligue 1? Pour un truc de droit télé sur le foot? Ok, d'accord. Ouais. Oui, bon, ben. Ce sont des nouveaux modèles à inventer, hein. Voilà, comment on stream certains contenus, et notamment certains contenus qui peuvent être protégés par des droits, comme des droits sportifs par exemple. Donc je crois que Zach, d'ailleurs, je me demande si Zach, je sais que Jiraya l'a fait, s'est penché sur la question par exemple de payer des droits à une société de production qui a les droits sur une émission de télé pour pouvoir la react en toute légalité. Alors, je pense que c'est ce qui va se mettre en place progressivement, en fait, hein. Voilà, ok. Voilà, donc ça, pas mal de rendez-vous quand même entre l'hebdo Étienne de demain 20h, entre le rendez-vous chez Zach samedi 13h et le Samplay de dimanche 20h. Après, lundi, mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine, je suis encore en question pour un champion. Je vais essayer de streamer le soir autant que je peux, en vous en un petit peu les journaux. Et puis vendredi, on remet ça, l'hebdo Étienne. J'ai déjà deux invités de calé. Voilà, je peux déjà vous dire qu'il y aura Jean Massier. Il y aura encore un représentant de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, qui revient. Ça, c'est cool. Vous avez bien aimé ça, avec des petits extraits des archives de l'INA. Et puis, le dimanche, un nouveau Samplay. L'invité est calé. C'est un garçon cette fois, ainsi que l'invité suivant. Et après, il y aura des vacances, puisque... je ne veux pas trop vous saouler quand même toute l'année avec mes streams. Et donc, pendant les vacances scolaires, voilà, en mode cool, de la Toussaint, de Noël, de février, de Pâques, eh bien, je ferai deux semaines de pause à chaque fois pour mes grosses émissions, c'est-à-dire pour les hebdos, pour l'hebdo Étienne et Samplay, tout simplement parce que avec les partenaires sont dealés un certain nombre d'émissions sur l'année. Et en fait, ça ne sert à rien que je fasse ces émissions pendant les vacances, parce que sinon, en gros, la saison s'arrêterait... ouais, en mars, quoi. En mars ou en février. Et donc, ce sont des vacances pas pour moi. Je ferai d'autres trucs, et notamment, je streamerai la revue de presse. Mais ce sera des vacances, donc les vacances scolaires de Paris, pour l'hebdo Étienne et Samplay, Toussaint, Noël, février, Pâques, deux semaines. Voilà. Ce qui me permettra, moi, de travailler sur la programmation et tout, quoi. Mais tout simplement parce qu'en fait, le nombre d'émissions que j'ai dealées avec les parrains, que ce soit France Télévisions ou Boulanger ou les nouveaux, en fait, fait que si je ne m'arrête pas pendant les vacances, la saison va s'arrêter très tôt. Voilà. Je pourrais streamer du jeu vidéo, par exemple, voilà, puisque c'est mon grand projet du moment. Me faire installer un petit setup de jeux vidéo et vous faire rire. Voilà. Et quand un stream en courant comme avant, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis heureux parce que le sport avait disparu de ma vie l'an dernier en raison du cumul France Info, Question pour un champion, Twitch, la famille. Et comme j'ai arrêté France Info la matinale, je retrouve un petit peu de temps pour dormir et un petit peu de temps pour faire du sport. C'est reparti. J'ai une petite course toute modeste, toute cool, 20 km entre c'est Marseille, ex-Marseille. C'est une course classique. Je crois que c'est Marseille, je ne sais plus, bref, en octobre, un petit 20 km pour se remettre un petit peu, pour voir un petit peu où on en est, c'est-à-dire très 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 en retard par rapport à ma condition physique d'abord. Marseille-Cassis, c'est Marseille-Cassis que je fais, un petit 20 km, voilà. Donc, alors 20 km à une époque pour moi c'était un peu cool, 20 km aujourd'hui, ben, ça va être une vraie course parce que je n'ai plus la forme que j'ai eue. Il y a Manon qui me dit, je crois savoir qui est Manon. Il y a Manon qui dit, je vous ai vu courir hier. Et alors je pense qu'on s'est croisé sur les maréchaux, Manon. Il y a Manon Vella qui dit, oui, je vous ai vu courir hier. Et je pense qu'on s'est croisé sur les maréchaux ou alors à l'arrivée dans mon quartier. Parce que je croise des gens. Bon, je suis un peu déguisé. Hein. Quand je cours, j'ai un bœuf, c'est un foulard de runner sur la tête. J'ai mes petits écouteurs. Je suis assez méconnaissable. Et à un moment, j'ai croisé une personne, donc une jeune femme, qui, l'expression va vous sembler étrange, mais qui m'a envoyé ce que j'ai interprété comme un regard de vieweuse. C'est-à-dire, le regard était amical, était sympathique, était chaleureux, était discret, était pas appuyé, était vraiment cool, un peu comme les gens sur Twitch. Et je me suis dit, tiens, c'est un regard de vieweuse, c'est un regard d'une vieweuse sympa. Je me suis dit ça, voilà. Et donc, mais vraiment quelque chose de très subtil, quoi. Et je me dis que c'est peut-être Manon qui est là. Voilà. Et ça m'a fait bien plaisir. Sachez d'ailleurs, c'est très drôle et ça me plaît bien. Aujourd'hui, dans la rue, on m'arrête beaucoup plus pour me parler de Twitch, quel que soit l'âge des gens qui m'arrêtent pour me parler, ce qui est toujours très agréable d'ailleurs. N'hésitez jamais à m'interpeller dans la rue. Je fais un métier public et ça me fera toujours plaisir de parler avec vous et je le dis vraiment sincèrement. J'aime bien rencontrer des gens. Donc les gens m'arrêtent beaucoup plus pour me parler de Twitch que pour me parler de Question pour un champion ou de France Info, quoi. Voilà. Et voilà. Donc Manon, si c'était toi hier, eh bien j'étais très content de te croiser, même si ça a duré une seconde. Manon qui peut témoigner d'ailleurs que je ne cours pas très vite. Non, Manon, tu mens. Manon dit la foulée est top, c'est faux. Je cours. Voilà. Si vous voyez un octogénaire ou un nonagénaire, on dit nonagénaire, ouais c'est ça. Un octogénaire courir un petit peu courbé, avec des tout petits pas, des toutes petites foulées, quoi. pas aucune extension, tu vois, genre clac 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 clac, un petit peu courbé comme ça, avec un gros sac à dos, parce que je cours avec un sac à dos. C'est moi ça. Et Manon dit jolie foulée. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai une foulée d'octogénaire. Il y a encore d'octogénaire pas très en forme, quoi. Voilà, j'ai arrêté le sport pendant un an. Catastrophe. Et en fait, je pensais que en 15 jours, j'allais retrouver mon niveau. Un niveau en vrai qui était bon. J'ai un peu couru dans ma vie. Hein. J'ai fait 23 marathons, je crois. J'ai fait des courses de 100 km ou plus. J'ai fait le marathon des sables dans le Sahara marocain, qui est une course de 250 km, que j'ai fait deux fois, mais en étape, quoi. Ça se fait en 6 jours. J'ai fait 3 Ironman. Bon, je cours pas très très vite, mais à une époque, je courais beaucoup, quoi. Et la vache, je pensais vraiment retrouver ce niveau en 2 secondes, et pas du tout, quoi. Alors, les poumons, ça va. Les poumons, on les retrouve vite. C'est vrai, quelqu'un me dit en 15 jours, c'est Amélie, on retrouve les poumons, c'est vrai. Le souffle, on le retrouve vite. Le cœur, ça va assez vite. Mais est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le début de la fin? La vache, sérieux, quoi. En termes de foulée, de vitesse, de puissance, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, on va y aller progressivement. On a le petit Marseille-Cassis dont vous parliez là, en octobre. Et puis, alors, j'ai appris que j'avais gagné. J'ai pas bien compris pourquoi. Un dossard pour le fameux marathon des Jeux Olympiques de Paris. Vous savez, ce fameux marathon ouvert au public. Et donc, j'avais tenté de l'obtenir lors d'une compète, là. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai reçu un mail comme quoi j'avais le dossard. Voilà. Donc, bah, ça va me motiver. Ça va me motiver pour faire ce marathon. Ça me fera un 24e marathon. Et puis, peut-être de le streamer. Je ne sais pas, je vais voir après. Et puis, de reprendre aussi les courses avec l'association dont je suis le parrain, dont je vous ai déjà parlé, qui est formidable, qui s'appelle Pompiers Raid Aventure. Ce sont des pompiers professionnels qui courent, qui emmènent courir avec eux des enfants en situation de handicap physique dans des petites chaises à porteurs qu'on appelle des Joëlettes, du nom de l'inventeur qui s'appelle Joël, avec une roue au milieu, deux bras devant, deux bras derrière et puis un fauteuil le plus confortable possible. J'ai couru beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'avais la forme avec eux. Je les accompagne par le cœur et la pensée aujourd'hui, mais plus du tout par les mollets, et j'ai hâte de les retrouver, voilà, pour courir avec eux. Et là, je sens, ça me réjouit, que je suis en train de retrouver la forme, quoi. Voilà. Obligé, il faut le streamer avec France Télé, me dit Nico Manga. Non, si je le stream, je le stream avec moi surtout. Pourquoi veux-tu que je le stream avec France Télé? C'est la course à pied, c'est perso, quoi. C'est pas France Télé qui me fait courir. T'es fou, quoi. Oh oui, j'avais pas réfléchi à ça. Qui est du spam, qui dit 24e marathon pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Petit clin d'œil sympa. Ouais, c'est cool. Streamer en courant. Ouais, Papy Pop, on l'a fait déjà, on l'a fait. On l'a fait. Merci beaucoup Shogun pour le Prime. Merci Séduimi encore pour le 4e mois d'abonnement. Pas encore parce que je t'ai pas remercié. Shakiron, merci beaucoup pour ce 12e mois d'abonnement. C'est énorme. Un an. Ah, au niveau moyen technique, Nico Manga, qu'est-ce que France Télévisions peut m'apporter au niveau moyen technique de stream? Tu es sûr que... Tu ne vois pas que je te demande plutôt à Joe? Vous êtes sûr que c'est les bons interlocuteurs? Ouais, Hugo, t'as pas entendu tout à l'heure, mais je t'en ai parlé. J'ai bien reçu le message, la personne m'a appelé pour ce que tu sais. Mais là, comme je suis en tournage toute la journée, j'ai un milliard de messages en retard et j'ai 1000 dossiers super importants à traiter que je traite un peu la nuit entre le taf et le stream, mais je vais pas pouvoir le traiter tout de suite, ce dossier-là. Voilà. Voilà, donc ça c'est le programme. Bon, bah, on va peut-être y aller doucement. Hein, on va se faire une petite revue de presse. Mais rapidement avant, je voulais votre avis sur les thèmes de demain soir dans l'Hebdo Etienne. Je voulais savoir un petit peu ce que vous vouliez qu'on choisisse dans l'actualité de la semaine. Je vais vous lister les thèmes qui me semblent importants dans l'actualité de la semaine et pour choisir peut-être les trois gros thèmes d'actu qu'on pourrait traiter demain dans l'Hebdo Etienne. Hein ? On fait ça ? Allez, je prends mes notes. Alors c'est à pas les, voilà, pas les punaises de lit par pitié, dit Pacoun. Bon, a priori c'est pas prévu. Merci le bazar des Laura pour ce très gentil message et pour ce 13e mois d'abonnement. L'affaire Chikirou, non. Alors je vous rappelle que les thèmes, je les choisis aussi en fonction un petit peu de mes invités. L'affaire Chikirou, en vrai, je vous en ai parlé longuement hier. Je suis partagé sur cette affaire, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas. Il y aurait eu Jean Massier, je lui aurais demandé. Je lui aurais demandé en vrai si ça l'intéressait. Mais franchement, ce que pensent Marie Palot, Maxile Dan, Alison Wheeler, et pas Manon Mella, puisqu'elle a été remplacée par, par Thomas Dessert, je suis pas sûr que ce soit vraiment le sujet. Hein, voilà. Puis en vrai, non. Bah, je vois pas. Non, non, non. Non, ça, ce serait une émission 100% politique. Chez Jean, par exemple, l'affaire Chiquillon, pourquoi pas, mais chez moi, non, je crois pas. Allez, je vous lis un petit peu les thèmes. Les états généraux des médias. Alors, j'aurais eu des journalistes. Il y aurait eu Manon. Ouais. Là, encore une fois, c'est un peu en fonction de mes invités. Il y aurait eu des journalistes. Les états généraux des médias. Ouais. Mais là, encore une fois, comme on va être contre streamer, youtubeur et humoriste, pas sûr, pas sûr. Ouais, je sais, Alastair me dit le gars à gauche, il est tout le temps là. Je n'arrive pas à le virer de cette émission. Ouais, la levée de l'anonymat sur Internet, c'est intéressant. C'est pas mal ça, en vrai. Ça, je l'avais noté, ça. Ouais, la levée, ça peut... Ouais. D'autant que j'ai un dossier dans la croix là-dessus. De l'anonymat. Ça pourrait. Qui m'a dit ça? C'est Chien Dog. Il y a des humoristes. Bah oui, Alison Wheeler, c'est une humoriste. Et Thomas Dessert, c'est un humoriste. Donc on a même deux humoristes. Ça va être la fête. J'avoue, la levée de l'anonymat, me dit Renaud, ok. Le droit de vote aux femmes, c'est-à-dire Kabaklou. 1944 en France, le droit de vote aux femmes. Donc, comme c'est une émission d'actualité, sur l'actu de la semaine, il faut que tu précises un petit peu. Tu utilises encore des stylos, Samuel? Les gars, j'ai 75 ans. Donc oui, j'utilise des stylos. Puis du papier aussi, hein, bien sûr. Ouais, et ce qui en découle, l'interdiction des VPN. On n'en est pas là, hein, mais c'est vrai que certains élus appellent à l'interdiction des VPN, par exemple. L'ajout du droit à l'avortement à la Constitution, sans pas les pieds, donc ça c'est dans le cadre de la réforme de la Constitution, éventuellement initiée par le président, mais tellement éventuellement en vrai. Moi je vais vous dire le fond de ma pensée sur la réforme de la Constitution. Pour faire une réforme de la Constitution, on en a parlé assez longuement hier, il faut avoir au minimum une majorité au Parlement, quoi, Assemblée, Sénat, parce que ou il faut que cette réforme soit validée par les deux assemblées, je crois, aux deux tiers, ou alors il faut passer par un référendum, et après il faut que ce soit validé de toute façon par le Parlement. Quand tu n'as pas de majorité absolue à l'Assemblée, quand le Sénat est contrôlé par une majorité de droite LR, franchement, il n'y a quasiment aucune chance. Je n'y crois pas du tout que le président Macron arrive à trouver le soutien pour faire cette réforme constitutionnelle sur l'élargissement du référendum, sur l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, tout ça. Voilà. Peut-être avec Jean, oui. Avec Jean, on pourra en parler, par exemple. Ah, bien sûr. Santé, mais pas des pieds, me dit, je suis d'accord avec ton constat, mais le sujet est intéressant, ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je vais vous prendre mes notes. Et vous avez le droit de rire de moi, puisque je vais vous montrer comment je travaille, vraiment à l'ancienne, voilà. Donc, comment je fais le matin, quand je lis les journaux pour vous? Voilà comment ça marche. Le lundi matin, à 5h, donc le réveil sonne, je prends un petit café et je me prends une feuille de papier A4. Voilà. Et je marque lundi, et dans le même ordre toujours, parce que les vieux, c'est maniaque, eh bien, je marque les journaux et les articles qui m'intéressent. Le Parisien... Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, c'est toujours le même ordre. Je l'ai dit, toujours le même ordre. En général, il y a Le Monde, d'ailleurs, avant Le Parisien. Et après, je marque les articles qui m'intéressent. Et enfin, je fais mon petit chemin de fer, c'est-à-dire que je numérote ces articles dans l'ordre dans lesquels je veux aborder ces thèmes, pour ne pas passer d'un journal à l'autre, mais plutôt d'une thématique à l'autre. C'est pour ça, par exemple, que je peux avoir deux ou trois articles sur le même thème qui viennent de journaux différents. Voilà, mon petit conducteur, et je suis les numéros. Voilà, c'est un système extrêmement élaboré. Alors, Yo-Yo Man, c'est intéressant, me dit, pourquoi pas le projet Odyssée du musée du jeu vidéo? Oui, je crois que c'est l'un de nos invités, Maxildan ou Marie, qui m'a proposé ça, et c'est une actu que j'ai suivie. Et vu le profil de nos invités. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, je le mets. Alors, qui m'a proposé ? C'est Yo-Yo Man. Donc, le projet Odyssée. Hein. Vous savez, du musée du jeu vidéo qui a déjà levé 1 million d'euros, là. De Thèves. Projet du musée. Ça, ça peut. Alors après, attention, parce qu'il faut... il faut que 3 thèmes, quoi. Après, il peut y avoir des cartes blanches des invités. Ouais, c'est intéressant, hein, le Gigantou 69, le relâchement possible du soutien à l'Ukraine par l'Occident. Moi, ça me passionne, mais là encore, est-ce que j'ai le bon plateau pour le faire ? Je suis pas sûr. Ouais, Amélie me parle du projet Odyssée également, ok. Pour un thème plus général. Alors, Guitou, il est intéressant ton thème. Guitou dit comment concilier écologie et gaming ? Et plus largement le monde internet, c'est un thème intéressant, mais moi c'est vraiment une émission d'actualité de la semaine, et pour que le contenu d'une semaine sur l'autre diffère, en fait je m'applique à vraiment me focus sur l'actu de la semaine, l'actu de ces derniers jours, et pas lancer des grands thèmes d'actu qui finalement pourraient revenir toutes les semaines. Voilà, donc c'est bon, c'est le projet éditorial que j'ai choisi, c'est notre projet, mais donc ce thème est intéressant, mais il n'est pas dans l'actu de la semaine. Voilà. Tu vas me dire, c'est très carré ton truc. Ouais, voilà, ça me permet d'avoir une émission très différente chaque semaine. Alors, prenons lundi par exemple, parce que c'est notre projet, vous avez la rêve, bien sûr, c'est une petite blague, un clin d'œil au président Macron. Je vous lis par exemple les thèmes de lundi. Donc, il y avait le torchon qui brûle au sein de la NUPES, par exemple, dans le Parisien. Je ne suis pas sûr que ce soit un thème pour nous. Vendredi, il y avait les pirates des casinos en France, là, mais voilà, il y avait le début de Wembanyama en NBA, il y avait ce qui continue ce que passait au Haut-Karabakh, hein, vous savez, avec la fuite des Arméniens qui vivaient dans cette enclave en Azerbaïdjan, il y a les punaises de lit, bon, alors il y a eu quelques articles cette semaine vachement intéressants sur est-ce qu'on en fait trop sur les punaises de lit, non, est-ce qu'il faut en parler, est-ce que c'est intéressant. Quelqu'un me disait tout à l'heure, non, surtout pas les punaises de lit. Il n'y a pas qu'une qui dit, non, overdose des punaises, me dit Chien Dog. Les punaises, allez, on fait pas de sondage, hein, c'est à la louche. Les punaises, il y a des gens qui... Levez la main à ceux qui sont pour les punaises. Arrêtons avec les punaises de lit, me dit Néron Ron. C'est non. Rudy, la copine de Mélenchon qui bosse bénévolement pour elle et filles, on en a parlé hier. Non, pas avec... Non, c'est non. Oh, bon. Les punaises, c'est non. Vous me dites non. Eh ben, c'est non. Eh ben, c'est non. Ici, c'est la démocratie. C'est-à-dire que souvent, je vous demande votre avis et je m'en fous. Non, c'est pas vrai. Je vous demande votre avis et je l'écoute. Bien sûr, je vous rappelle que mes meilleures idées, je le clame pas trop fort sur tous les toits, donc je le dis tout doucement, mes meilleures idées de stream, mes meilleurs titres d'émission, mes meilleurs concepts, c'est vous. Hein. Ça me plaît, le titre de l'émission du dimanche sur le jeu vidéo, c'est pas moi. Un jour, j'ai lancé un stream. J'ai dit, les gars, je vais lancer une émission sur le jeu vidéo pour rattraper mon retard sur cette université de culture. Je dis, comment on pourrait appeler cette émission, hein? Au bout de 10 minutes, ça me plaît. L'hebdo Étienne, l'hebdo, je crois que Monsieur Chibre, c'est vous qui m'avez donné ce surnom. Tout ce qui est bien ici, c'est vous, quoi. Donc, je vous écoute quand même. Donc, il n'y aura pas de punaise de lit. Ok, c'est noté. Je continue. Qu'est-ce qu'on avait lundi ? On avait. Ouais, la transition écologique, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Octobre bouillant, ça c'est les températures, le fait qu'il fasse chaud. Le fait que les femmes sont de meilleurs chirurgiens, des statistiques que les hommes. Covid, le retour du Covid, une histoire sans fin, c'était la une de la Croix. Vous réagissez, hein, quand vous voyez. Le jeu de la virgule. Donc ça, on parle de violence, on parle de harcèlement à l'école. Le Haut-Karabakh, le Covid, Laurent Wauquiez, bon, non. L'Arménie. Et le nouveau jeu FIFA. Voilà. Alors, le Covid, c'est non, vous me dites. Liberté d'expression versus l'humour, me dit Jalove. Les Restos du Cœur, oui, mais je vous en ai parlé beaucoup du Resto du Cœur quand les restos ont lancé, vous savez, un appel en disant, là, c'est une catastrophe, on a de plus en plus de bénéficiaires et des repas qui nous coûtent de plus en plus cher. Du coup, on va devoir, puisqu'on a moins d'argent, eh bien, réduire le nombre de repas, par exemple, qu'on distribue, ou réduire les portions. Donc, ils ont lancé un grand appel qui a été, je crois, pas mal entendu, à la fois par les pouvoirs publics et par les donateurs. Donc, j'en ai parlé à ce moment-là. Bon, je ne vois pas quel thème on peut faire là-dessus, mais en vrai, c'est une actu importante. « Santé des pieds dit c'est moi ou l'actu est pas super cette semaine. Il y a pas des dingueries, c'est vrai. Il y a des semaines où l'actu est plus riche, mais sur une semaine d'actu, on va trouver largement des trucs, des trucs, des trucs. Ah, c'est marrant, vous parlez des femmes chirurgiens. Oui, mais il faut qu'il y ait débat. À partir du moment où vous avez des études statistiques qui disent que les chiffres disent que les femmes chirurgiens sont de meilleurs chirurgiens que les hommes chirurgiens, qu'il y a moins d'accidents, qu'il y a moins de décès, il y a zéro débat. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux débattre? Elles sont meilleures. Tant pis, les gars, c'est pas grave. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux débattre? Point. Point. C'est fini. La Coupe du Monde de rugby, France-Italie vendredi. Ouais. Ouais, je peux leur demander leur avis, ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Les pénuries de médicaments. On ne parlera jamais assez du harcèlement scolaire. El Giganto, je vous en parle quasiment toutes les semaines, moi. Peut-être que je vais vous en mettre une petite louchette, mais je vais finir par vous lasser, quoi. Alors, il y a Eden et quelqu'un d'autre qui dit « Humour et liberté d'expression », très intéressant. Mais il faut préciser un petit peu l'angle, c'est-à-dire de quoi veux-tu qu'on parle ? Humour et liberté d'expression, c'est intéressant. Hein, Hugo ? Je continue. Dans la semaine, donc je prends mardi maintenant. IA, le débat sur les IA, bon, ça on l'a fait la semaine dernière, donc non. Booba contre Magali Berda. Booba mis en examen pour harcèlement. Magali Berda bientôt jugée pour escroquerie, tout ça là. Booba, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un justicier? Est-ce que... C'est pas mal ça. Est-ce que c'est un justicier? Est-ce que c'est dangereux ce qu'il fait parce que du coup c'est du harcèlement? Tu vois, Booba, vous en pensez quoi? C'est pas mal ça, hein? Il y a une actu hein, pour le coup, puisque Booba a été mis en examen pour harcèlement contre Magali Berda. Et certains, au contraire, le défendent en disant qu'il a dénoncé des choses vraiment bad, quoi, les influx voleurs, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai vu que Booba avait un nouveau cheval de bataille, si je puis m'exprimer ainsi, cette semaine, puisqu'il vient de faire un... Tiens, on va aller voir ça. Un post sur Morandini, Jean-Marc Morandini. On va aller sur Twitter. Sur Morandini, vous savez qui est l'animateur de quoi? De C8, il est sur C8, qui a été condamné dans des affaires, mais en fait il y a eu appel, donc du coup son employeur dit ben, tant qu'il y a appel, il est innocent. Vous connaissez l'histoire ou pas? On va aller Booba, il est là. Hop. Et je crois qu'il a fait aussi. Alors ça c'est sa réaction à sa mise en examen. Hein. Il dit Je maintiens le cap. Ouais. C'est CNews, c'est pas C8, c'est CNews, d'accord. Et je crois qu'il a écrit quelque chose sur Morandini aussi. Où est-ce que tu es? Ouais, ici. CNews, d'accord. Morandini, c'est bien CNews, d'accord. Voilà, tweet le 4 octobre, c'était hier, du rappeur Booba. Pourquoi Morandini est-il encore présentateur star sur CNews alors qu'il a été condamné est reconnu coupable à plusieurs reprises. Il est une menace pour nos enfants, c'est inadmissible et très inquiétant. Ça en dit long, ça devrait soulever une indignation générale, mais rien ne se passe, ces gens sont protégés, dit-il. Ouais, Jalof, c'est intéressant ce que tu dis. Sur le thème, la fin justifie-t-elle les moyens, se rendre justice soi-même? Belle de jour, merci beaucoup pour ce 11e mois d'abonnement. Alors, on va aller voir d'ailleurs Morandini. Je pense que sa fiche Wikipédia doit être à jour. Il a été condamné pour quoi et où on en est d'ailleurs des appels, tout ça. On va aller directement à la page justice. Hein. C'est drôle parce qu'il a, moment, il a quand même présenté une émission. Il présente d'ailleurs toujours une émission qui s'appelle... Pardon. Excusez-moi, c'est un rire nerveux. Jean-Marc Morandini, il présente une émission qui s'appelle « Présumé innocent ». Bon, ça ne s'invente pas. Voilà, alors la page justice, alors parcours à la radio, parcours en presse écrite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... Ouh là, c'est une grosse page. Les polémiques et les condamnations judiciaires, ok. Fréquentation, recette, plainte, mise en examen, enquête pour harcèlement sexuel, travail dissimulé, corruption de mineurs. Oh là là, c'est, oh bah pas, c'est trop long, hein. Oh là là, putain, oh la vache, il y a 15 pages. On va aller directement à la, condamnation. Hein. Le 29 août 2023, donc il n'y a pas longtemps, Jean-Marc Morandini est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire pour harcèlement sexuel. Voilà. On va pas rentrer dans le détail. Ah non, c'est pas un rappel à la loi, non. Attendez, on va essayer de trouver un article sur la dernière condamnation de Morandini, parce que là, la page Wikipédia de Morandini, c'est pas possible. Voilà, Le Monde, voilà. Donc, Morandini, de quoi, quelle a été la condamnation et pourquoi ? Morandini, c'était fin août, condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire pour harcèlement sexuel. Également condamné pour travail dissimulé, ses avocates ont déclaré qu'il ferait appel de cette condamnation. Je crois qu'il a fait appel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que son employeur dit il a fait appel, donc on le garde, quoi. Hein, il est considéré comme innocent. Le tribunal judiciaire de Paris a donc reconnu l'animateur coupable de harcèlement sexuel contre un jeune comédien et l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans. Voilà. Il a aussi l'obligation de suivre des soins psychologiques. Voilà. S'il ne suivait pas les injonctions du tribunal, notamment de soins, je pense, hein, durant les 2 prochaines années, bien, son sursis serait révoqué. Et donc, du coup, je pense qu'il pourrait faire de la prison ferme. La réaction de la chaîne de télévision qui l'emploie, CNews, elle maintenait son animateur à l'antenne. Pourquoi ? Nous sommes attachés au respect de la présomption d'innocence. Alors, il a été condamné, donc c'est un peu bizarre. Défend la chaîne de télévision du milliardaire Vincent Bolloré. Là, c'est pas expliqué, mais peut-être parce qu'il a fait appel, donc du coup, on estime que l'appel fait qu'il est toujours considéré comme innocent. Je sais pas. Voilà. Bon, bref. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le sujet Booba, et peut-être que bah, du coup, ça, ouais, j'ai l'impression que ça vous faisait un petit peu réagir, l'affaire Booba. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous voulez qu'on traite ça demain ? Le combat de Booba contre les influx voleurs, sa mise en examen, ses méthodes, tout ça ? Ça vous va ? C'est yes ? Ok. C'est plutôt oui. Ça va être intéressant d'avoir les avis des invités, Meunier, MGCTF. Si les modos valident en plus, c'est yes. Ok, Hugo dit yes aussi. Ok. Bon, pour l'instant, on a plutôt validé, par exemple, la levée de l'anonymat sur Internet, enfin du pseudonymat. On a plutôt validé le projet de musée jeux vidéo, mais ça pourrait être une carte blanche, et Booba aussi. Ok, je continue. Qu'est-ce qu'on avait dans l'actualité de mardi ? Je crois que je vous ai tout dit sur mardi. Non, je reprends mardi. Donc il y a Booba, les états généraux de l'information, mais là, j'ai pas de journaliste sur ce plateau. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Les Nobel de médecine, de physique, franchement, là non plus. Il y avait un article intéressant de Patino sur la révolution numérique. Comment la révolution numérique nous épuisera ? Ah, nous épuise. Vous vous souvenez de cet article ? Patino. Bruno Patino, c'est le patron d'Arte, je crois. C'est aussi quelqu'un qui a eu beaucoup de responsabilités dans l'audiovisuel français. C'est aussi un intellectuel. Et en fait, il a écrit une tribune cette semaine passionnante. Bruno Patino, c'était dans le Figaro de mardi, page 18, sur comment la révolution numérique nous épuise. C'est-à-dire comment l'offre, l'abondance infinie de contenu, télé, vidéo, info, musique, fait qu'en fait, on est débordé, on est assailli. On a le vertige, on passe maintenant une partie importante de notre temps non plus à consommer un produit, un contenu culturel, mais en fait à choisir. Hein? Je crois que l'article nous disait que dans une vie, on passait 100 jours dans une vie juste à choisir, c'est-à-dire à hésiter entre deux séries de Netflix, quoi. Voilà. C'était pas mal ça, l'épuisement numérique. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Ouais, vous êtes nombreux à me dire que vous avez beaucoup aimé cet édito et cet article. Ça pourrait être pas mal, ça. Oui, en même temps, t'as raison. Il y a Anonymous qui dit pauvre de nous, quelle vie difficile. Ouais, c'est un peu des soucis de riches. J'avoue. Mais c'est pas inintéressant. Ok. Je continue. Et on avance, hein. Bronchiolite, bon, bah, c'est le succès du traitement contre la bronchiolite, tout va bien. C'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il y a pénurie. Les Nobel, ok. Mercredi, le synode de l'Église catholique. Bon, là, c'est pas sûr. Les relations difficiles entre la France et le Maroc. L'affaire Sofia Chikirou, on en a parlé ensemble. Le film Le Règne Animal. Alors, d'ailleurs, sachez que Marie Palot va faire une carte blanche sur le cinéma français. Voilà, sur la hype du cinéma français en ce moment, les ambitions du cinéma français, avec notamment, par exemple, le film Le Règne Animal, là, dont les critiques sont dithyrambiques. Voilà. Et Marie a fait une carte blanche là-dessus, quoi. Non, c'est pas ça. Il y a Starkotti qui dit « Je suis curieux, pourquoi tu considères que les prix Nobel, c'est pas un sujet intéressant ?» Si, c'est super intéressant. On en a parlé d'ailleurs ici. Mais c'est juste que c'est pas un sujet de débat. Tu vois, on va pas dire pour ou contre le Nobel de physique. Pour ou contre, qu'est-ce qu'il y a eu, les recherches portées, notamment sur le vaccin, c'est même pas le vaccin ARN d'ailleurs. Le prix Nobel de médecine qui a ouvert la semaine des Nobel, c'était donc... ces deux Français qui ont été, un Français et une Franco-Suédoise, distingués pour leur recherche sur l'ARN qui a ouvert la voie ensuite au vaccin ARN, pas seulement contre le Covid. Franchement, on est des gens sympas et tout, mais demander à Thomas Dessort, à Alison Wheeler, à Max Hildan et à Marie Palot et à Samuel Etienne leur avis sur la technologie ARN, vous allez très vite me dire dans le chat et nous dire dans le chat et vous aurez raison. Hey, « Eh les gars, vous n'êtes pas super équipés, hein. C'est un peu le café du commerce, votre truc. » Bah ouais, c'est un peu le café du commerce. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire? Moi, je peux vous lire des articles pertinents le jour J sur la question pour réfléchir ensemble, mais qu'est-ce qu'on va vous dire de plus intelligent que ce qu'on va lire dans Le Monde ou dans La Croix sur le sujet, quoi? Vous voyez? Donc, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est pas un sujet d'échange, de débat. Oh, pardon. Ouais, j'ai dû dire une bêtise. Les deux Français, c'est en physique, c'est pas en médecine. Autant pour moi. Merci. Bah, merci de suivre l'actu. Je continue. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Faut-il lever l'anonymat sur les réseaux sociaux? Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est La Croix. C'est mercredi, page 7. Comme ça, je le note. La Croix, page 7, mercredi. Voilà. Et puis la Constitution. Alors, débat qui me passionne, moi. Faut-il une réforme de la Constitution? Faut-il réformer la 5e République? Faut-il ne pas réformer la 5e République? Faut-il une 6e République? Là encore, passionnant, mais je ne suis pas sûr que Thomas Dessor, Alison Wheeler, Max Hildan et Marie Palot aient envie d'en parler et nous disent des choses un peu nouvelles là-dessus, quoi. Hein? En fait, c'est une émission de débat. Donc, il ne s'agit pas de choisir forcément des infos essentielles, mais c'est des infos où le débat peut apporter quelque chose avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Hein? Et puis, l'actualité d'aujourd'hui, eh ben, en fait, ça va être la revue de presse qu'on va faire là maintenant. Voilà. Aujourd'hui, dans l'actualité, j'ai noté pour vous un article du Parisien sur les annonces du président Macron sur la réforme de la Constitution. Ok. Ensuite, on parlera de... Alors, vous allez dire, je parle beaucoup du pape François en ce moment, mais des annonces sur le climat du pape François. C'est-à-dire, il a produit un texte qui, en fait, appelle avec beaucoup de vigueur l'humanité à prendre conscience de l'urgence. Voilà, on a un pape François qui est, comment dire, vachement avancé sur ce combat, d'une façon étonnante. Moi, je trouvais ça intéressant. Et on n'a pas forcément besoin d'être chrétien ou catholique pour s'y intéresser, donc je vous parlerai de ça, c'est dans l'actu. Je vous parlerai aussi de, c'est pas le sujet le plus folichon, mais je pense qu'il faut en parler, d'un gros dossier dans le monde qui constate que partout, quasiment partout dans les pays européens, il y a un durcissement des politiques migratoires, hein, pour freiner le nombre de personnes qui viennent s'installer dans les pays. Voilà, donc ça monte, voilà, en Grande-Bretagne, ça monte en Allemagne, ça monte dans plein de pays, et peut-être demain en France. Donc c'est pas le sujet le plus foufou, mais je voulais vous parler de ce sujet. Je vais vous parler aussi, je regarde mes petites notes, mes petits numéros. Merde, j'ai un dossier sur les punaises de lit, désolé. J'ai un petit dossier sur les punaises de lit. C'est la dernière fois que je vous en parle. Et puis, le lancement dimanche d'un nouveau journal, hein, du dimanche, qui s'appelle La Tribune. La Tribune, qui est un journal économique qui existe déjà et qui lance une édition le dimanche. Voilà. D'après ce que j'ai compris, mais qui ne sera pas dominante économique et financière, qui sera vraiment un journal d'actualité. La Tribune dimanche, voilà, et qui vient concurrencer les journaux nationaux déjà en place, les journaux régionaux, mais aussi les journaux nationaux comme le Parisien dimanche et le journal du dimanche, le JDD, qui a changé, vous le savez, radicalement de ligne éditoriale récemment. Non, il n'y a pas de scène, il y a Alexandra qui dit la scène, il n'y a pas de scène. C'est juste moi en fait, parce que la scène, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Voilà, donc ça, bon. Et alors maintenant, pour être transparent, je vais vous lire aussi ce que mes invités, sans vous montrer leur message, parce que ça c'est un peu indiscret, m'ont proposé un petit peu. Bon, pour l'instant, Alison Wheeler n'a pas trop proposé de choses parce que je pense que bon, c'est la première fois qu'elle vient. Donc elle, pour l'instant, elle ne me fait pas de proposition. Alors il y a Marie qui nous propose. Là, je veux votre retour. Il y a Marie Palot qui nous propose, vous savez, il y a une espèce de trend, de hype en ce moment là sur les réseaux, de cette IA yearbook années 90 là, hein, qui vous mettez des photos dedans et puis ça vous envoie des photos comme si vous étiez des lycéens un peu aux States là. Vous avez vu ça, tout le monde poste ça. Alors en fait Marie voulait qu'on joue à ça, qu'on fasse ça avec nos photos, voilà, ça coûte 6€ par personne, c'est assez joli. Et Marie dit, ça témoigne toujours de cette fascination pour une esthétique qu'on retrouve dans les séries, les films et tout. Bon, c'est marrant, mais c'est marrant. Ce serait une carte blanche, hein. Ce serait une carte blanche. Je vous montre ce que ça donne, parce que certains, quand tu te promènes sur Twitter, tu peux pas y échapper. Hein. C'est partout. Voilà. C'est partout. Tu vas sur Twitter, tout le monde l'a fait, quoi. Je descends un peu le fil au hasard là. Attends, par exemple, Gigi l'a fait, Jiraya. Vous allez voir que ça marche. Voilà, le compte de Gigi. Alors où est-ce qu'il a mis ça, Gigi? Voilà. Donc Gigi l'a fait, par exemple. Hein, voilà. Ça donne ça. Voilà. Gigi au lycée, aux States. Voilà. Celle-là, elle est top, celle-là. Avec le survêt brillant là. Hein? Hein? Merci John Satura, c'est adorable. Oh! Il est pas beau? Il est pas beau? Il est pas beau le Gigi là? Regarde le beau gosse là. C'est génial hein? Voilà. Voilà. Et là. Oh putain, la... Et alors il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. On va taper. Attendez, on va trouver. C'est comment? C'est. Bougez pas. Comment on peut taper? C'est yearbook. Faut taper yearbook. Après, je sais pas si les gens ont mis le hashtag ou pas. Marie l'a fait, Marie Palot aussi un peu. Voilà, il y a qui là? Il y a Gastronogeek qui l'a fait. Voilà. Gastronogeek ici, bof, voilà. Tac. Tac. Oh, putain, tac. Tac. Oh, beau gosse, beau gosse. On me dit que Marie Palot l'a fait. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est plein en fait. Hein. Des personnalités, tout le monde en fait. Voilà. On va tomber sur des gens là. Hein. Bon, j'essaie de trouver des gens qu'on connaît. Bon, Marie l'a fait par exemple, on va aller voir Marie Palot. Marie, c'est joli, hein. Marie. Trinity l'a fait aussi. Ah oui, Trinity, c'est pas. Tonton. Oh, oui, Tonton l'a fait. Oh, bravo. Alors, Marie, elle l'a fait, j'ai vu. C'est pas mal du tout, Marie. Hop, regardez. Marie. Waouh. Super jolie photo, en vrai. Hein. Marie Palot. Voilà. Ouais, elles sont super, les photos. Hein. Waouh. Waouh. Tonton l'a fait. Tonton, c'est, je crois que c'est top, Tonton. Attends, j'écris n'importe quand. Quel cochon, celui-là. Tonton. Samuel, vas-y, t'as un clavier, tape les lettres, c'est bon quoi. Tonton. Tonton, il l'a fait, tonton, c'est énorme. Tonton. 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 tonton, 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 eh, matez-moi le tonton, quoi. Eh, hein, magnifique, hein, eh, regardez comme il est beau, quoi. Le séducteur. Ouais, tonton avec des cheveux, ouais. Oh, ouais, putain, et en vrai, ça va, hein. Beau gosse. Hein. Ouais, tonton voisine, ouais. Y a eu un, y a... Ça, c'est tonton voisine, ouais. Exactement, tonton voisine. Slash rock voisine pour ceux qui n'ont pas la ref. Et on m'a dit que Trinity l'avait fait aussi, c'est ça ? Alors, Trinity. Voilà. Bon, alors après, bon, ça va nous faire marrer, mais. Je pense que la carte. De... Peut-être que la carte de. La carte. Blanche de Marie sur le cinéma français, peut-être plus. Trinity l'a fait, peut-être ? Vous êtes sûr ? Parce qu'elle est en triple, là, Trinity, elle se promène. Ah, bah ouais, elle l'a fait. Ok, bien vu. Et hop, ouais, c'est bien aussi. Hein. Waouh ! Waouh, elle est belle. Oh, elle est belle, cette photo. Voilà. Voilà. C'est quoi l'appli ? C'est. Bah, moi, je l'ai. Je voulais le faire aujourd'hui pour rigoler. Mais. J'ai pas eu le temps. Parce que ça coûte 6 euros quand même. Pas la, ouais, le, pour le faire. Et, c'est Epic. Ouais, Epic. E-P-I-K. Epic. E-P-I-K. C'est une appli. Mais c'est payant. Hein. C'est Epic. Voilà. Epic AI. Voilà. Ouais, on est d'accord sur le cinéma, c'est le plus intéressant. Voilà. Donc, hop, je vous redis ce que m'ont proposé les invités. Donc, Marie m'a proposé ça. Marie m'a, Max, Maxidlan m'a parlé de l'abonnement payant pour Facebook et Insta bientôt. En fait, alors, je suis content parce que Marie, Marie, Thomas Desseur, Maxidlan m'ont proposé plein de sujets. Hein. Thomas Desseur m'a proposé le projet de musée Odyssée, hein, avec la collecte Kiss Kiss Bang Bang qui bat tous les records. Voilà. Voilà. Ah, Max m'a proposé un sujet en. Ah, il y a un message de Joe, je vais aller voir. Un sujet que j'ai trouvé très intéressant. Oh, il y a Thomas qui m'a proposé un truc intéressant aussi. Max, il m'a proposé 2024. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment, si c'est bien ou pas. L'année du jeu de cartes. Star Wars, Magic, Flash and Blood, Altered, Disney, vous allez forcément en aimer un. Je peux faire un truc très accessible et didactique, je sais que Marie, ça lui parle. Qu'est-ce que vous en pensez ? 2024, l'année du jeu de cartes en carte blanche, c'est pas mal ça, hein ? C'est Max qui propose ça. Oui ? Trop bien, me dit Romdom. On s'en fout, dit le bon Gaulois. Bonne idée, oui. Pas très fan des jeux de cartes, mais en vrai, pourquoi pas ? Je pense qu'il peut en... Je pense que... Rien à péter, super. C'est très, les réactions sont très épidermiques. Hein. Ah, comment ça, c'est un peu l'autopromo déguisé, me dit Poison. Pourquoi il a des jeux de cartes, Max ? C'est moite-moite. Hein. Hmm. Comment ça, c'est une manière détournée sur la promo, c'est-à-dire ? Il fait des streams jeux de société ? Bah non, c'est une de ses passions, quoi. Il est un peu spécialisé en jeu de plateau. Bah oui, mais c'est pas de la promo, c'est juste qu'il aime ça. Ouais. Il fait partie du jury des As d'Or et il a une chaîne consacrée aux jeux de société. Ouais. Ah, ce sont des OP aussi, ok. Ok, ok. Sinon, il a proposé pourquoi cette année encore je n'achèterai pas le nouvel iPhone. Elon Musk de plus en plus politisé, est-ce que c'est une bonne chose pour le monde, pour les Américains, notamment avec ses vidéos sur l'immigration illégale, voilà. Et puis alors moi, il y a une... Un sujet que Thomas Desseur m'a proposé que je trouve très intéressant aussi. Voilà. Avec la popularisation toujours plus intensive des plateformes, va-t-on vers un modèle où on ne choisit plus vraiment son contenu ? Algorithme, mise en avant de contenu plutôt que la bonne vieille bande-annonce des familles pour le cinéma par exemple. Et ça rejoint complètement la réflexion de Bruno Patino sur l'épuisement numérique. Voilà. Bon, écoutez, on a fait un petit peu le tour. Ouais, Thomas Desseur sera là. C'est pas mal ça, hein ? Ouais. On va en faire plus qu'une carte blanche, on va faire un gros thème en fait. Bon, alors pensez à moi, parce qu'après ce petit stream d'actu là, eh ben, je vais me pencher là-dessus et je vais écrire tout ça, mes petits lancements, et je vais envoyer tout ça à mes invités pour que demain ils aient une idée assez claire de là où on veut aller. Hein ? En tout cas, merci d'avoir participé à ce petit échange. Ça fait une heure que j'ai pas remercié les subs. John Ceintura, merci pour le 19e mois. Pardon, j'étais sur mes notes. Merci beaucoup, John. Acides TV, merci beaucoup pour le 26e mois d'abonnement. C'est énorme. Belle de jour encore, merci. Fred Atom, je ne sais pas si je t'ai remercié, je crois pas. Maxou, merci beaucoup. Le Bazar des Laura, je crois pas, hein. Si, merci beaucoup. Oui, Boulaine, tout à fait. Manon Mella est un peu souffrante. Rien de grave, mais elle était un peu malade. Et donc j'ai dû remplacer Manon par Thomas Desseur. Voilà. Et alors, je suis assez fier de moi, puisque dans... Il y a Joe qui va passer sur l'émission de Zach samedi aussi, ça c'est cool. Bientôt dans l'Hebdo Étienne, vous aurez, alors je l'ai déjà un peu annoncé hier soir, roulement de tambour, qui vous savez, qui sont les snorkies, excusez-moi, Bruno Guillon, ouais. Bruno Guillon, l'animateur, va venir bientôt dans l'Hebdo Étienne. Super, ça me fait super plaisir. Je suis super fier avec l'emploi du temps qu'il a, l'emploi du temps de fou. Voilà, Bruno Guillon dans l'Hebdo Étienne. Moi, je dis, ça le fait. Gargantosaure, merci pour le 14e mois. En vrai, c'est bien. Hein, voilà, ça bosse, hein, ça bosse. Oui, je l'ai déjà dit lundi, mais voilà, je vous le redis, quoi. Ouais, j'ai envie de dire Bruno la classe, tout à fait. Il y a Célesto Moldave qui dit « Moi, ce que je comprends, Sam, c'est que ton stream, il faut arriver dessus après la première heure pour avoir de l'actu. » Exactement. C'est le principe. On est bavard. D'ailleurs, petite anecdote qui va vous faire rire. Alison Wheeler m'a posé, qui vient donc demain soir, l'humoriste, m'a posé la question que posent tous ceux qui ne connaissent pas trop Twitch quand ils viennent la première fois. Alison Wheeler m'a demandé hier « Samuel, au fait, ça dure combien de temps ton émission ?» Voilà. Et... En général, quand cette question m'est posée par quelqu'un qui ne connaît pas trop l'univers de Twitch, je réponds un peu à côté, je dis, tu sais, Twitch est un média du temps long. C'est un média qui prend le temps de la réflexion, du débat, de l'échange, de l'écoute. Voilà. Et c'est aussi un média qui prend le temps du pas de côté, tu vois, une espèce d'introduction. Voilà. Et je lui dis, bon, en gros, t'en as pour 3 heures. Ce qui peut faire peur la première fois. Et je lui ai dit pour être poli, je lui ai dit, mais tu peux partir un peu avant si t'as d'autres trucs, quoi, pour pas lui, tu vois, qu'elle se sente. Et donc Alison m'a répondu aujourd'hui, bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai un truc après et donc je vous quitterai au bout d'une heure et demie. Une heure et demie, c'est l'intro, hein. Une heure et demie chez moi, c'est bonjour, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ah la vache, elle est bien bonne celle-là, ta blague, qu'est-ce qu'on rigole, tiens Eric, remets-nous un coup à manger, qu'est-ce que tu veux boire, ouais, puis t'as vu machin et tout, quoi. Il y a Itsu qui dit, je pense qu'elle rigole, non, je pense que c'est quelqu'un très occupé, elle va vraiment je pense que pour quelqu'un qui vient plutôt du monde de la télé, hein, qu'elle a beaucoup fréquenté ces dernières années, bah en fait, voilà, pour elle, une heure et demie, c'est très long, quoi. Donc, je pense que Alison va faire l'intro. Alors, là où c'est une bonne nouvelle, parce que moi, je suis un peu triste quand même, parce que j'aurais aimé la voir plus longtemps, là où c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on aura plus à manger. Parce que Eric fait à manger pour tout le monde. Voilà. Mais non, mais elle savait pas que Twitch était un média. Enfin, comment, quand t'es pas dans cet univers, penser que le moindre stream dure 3 heures, quoi. Tu vois. Oui, mais pas nous. Ah bah oui, mais il faut être chroniqueur. Il y a Santé, mais pas des pieds qui dit oui, mais nous on mange pas. Bah, faut être chroniqueur, que je te dise, moi. Hein, faut être un. Voilà. Voilà. On va rire, ça va être drôle. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? On va la séquestrer. On va la séquestrer avec douceur. Voilà. De manière amusante, de manière rigolote, hein, voilà. Donc non, je vais pas l'attacher. Je pense que je vais avaler la clé. Je pense que je vais prendre la clé de la porte d'entrée, voilà. Et au bout d'une heure et demie, voilà, je vais faire et je vais l'avaler. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes 3 heures. Tu restes 3 heures. Et vous me dites, oui, mais après, vous êtes tous enfermés dans la pièce de stream. Eh bien non. Parce que 1h30 de plus, si tu manges un peu, si tu grignotes un petit peu, digestion. Tu récupères la clé. Un petit coup sous l'eau, un petit coup de sopalin, et puis tu libères tout le monde. Tout est prévu. Le plan est carré. Je peux te dire que le stream, il est OK. Hein? Voilà. Comment ça, ça va trop loin? Non, non, c'est... The brain. Un génie, exactement. I am Sophia, tout à fait. Merci beaucoup, Finistera, pour le deuxième mois d'abonnement. Eh ouais. Comment ça, ça pue ton histoire? Pas du tout. Non, efficacité. D'ailleurs. À un moment, il faut aller au-delà des convenances, il faut aller au-delà des règles. Hein. Moi, je suis un rule breaker. Rule breaker, putain, c'est pas possible. Hein. À un moment, il faut y aller, quoi. Voilà. Un problème, une solution, quoi. Une invitée qui n'a pas beaucoup de temps, t'avales la clé. On voit que c'est pas ta première fois à faire ça. Un problème, une solution. Moi, je suis dans l'efficacité, quoi. Ouais, action, réaction, exactement. Ouais. Ouais. Bon, allez. Trêve de billevesée, trêve de bêtises. Que dites-vous d'un... Je range mes petites fiches. D'un petit sommaire. Pour vous dire voilà les petits articles que je vous ai mis de côté ce matin. Voilà. Il n'y a pas mille trucs, on va aller vite en vrai. Vous voulez savoir ou pas? Diego de Wavre, j'ai la ref. J'adore quand un plan se déroule sans accroc, exactement. Allez, je vous montre. Ouais, allez, go, c'est parti. Il est où mon go? Il est là. C'est un petit yes, ça. Ouais, ça c'est un yes bien gras, bien baveux comme j'aime, c'est parti, yes ça. Alors, ça marche, ok, ça c'est du rouge, ça c'est un article. Je vais vous parler de ça. Hier, je suis un peu resté sur ma faim. Hier soir, je vous ai lu un article, un dossier dans l'Opinion sur « Mais qu'est-ce que c'est que cette réforme constitutionnelle que souhaiterait le président Macron ?» Bon, c'était un avant-papier, comme on dit, c'était avant les annonces. Et puis après, on est allé voir, notamment sur lemonde.fr, quelles avaient été les annonces du président Macron hier sur une éventuelle, moi je souligne éventuelle trois fois, réforme constitutionnelle. Et on avait vu un article de Libération qui trouvait que c'était bien flou. J'ai voulu en avoir le cœur net, vous me connaissez. Je suis allé lire Le Parisien ce matin. Parce que je trouve que c'est dans Le Parisien que l'article est le plus clair. Effectivement, le président a donc relancé le chantier de la réforme constitutionnelle, mais un, c'est flou. Et deux, il y a peu de chances que ça débouche pour des raisons politiques. Est-ce qu'on peut envoyer un maximum de force à Amorbis, qui nous dit, avec beaucoup de douleur dans les mots, je sens qu'il y a une forme de détresse. Salut Sam, je me faisais une joie de suivre l'émission de demain soir, mais une terrible nouvelle vient de tomber. Mon PC vieux de 2016 vient de rendre l'âme. Je sais que je ne pourrai pas suivre en direct, alors je vous souhaite d'avance à tous une bonne émission. Regarde, Amorbis, tous ces messages de soutien. Regarde tous ces petits F pour toi. Voilà. Eh bien, Amorbis, j'ai le plaisir de t'annoncer que je vais remplacer ton PC. Non, je peux pas. Non. Déjà que j'ai mon PC de gamer que j'ai pas, là, je peux. Non, ça aurait été, j'ai pas. J'en ai des PC là, mais ils servent. Mais je pense à toi. Trop tard, c'est dit. Non, j'avais les doigts croisés dans le dos. Ça compte pas. Voilà. Non, je croisais les doigts dans le dos. Je suis dit qui est, de toute façon. Voilà. Non, je croisais les doigts, de toute façon. Donc, on parlera de Macron. Voilà. En tout cas, on t'envoie plein de force et à ton PC qui est dead. Alors là, vous allez me dire, tiens, c'est étrange. Samuel Etienne nous parle beaucoup du pape François en ce moment. Est-il en train de nous faire une conversion? Non. Mais j'avoue que ce texte que vient de publier le pape François, appelant à une transition énergétique contraignante, le mot est important, avant la COP28, il est très fort. C'est un texte engagé, Un texte où le pape tire la sonnette d'alarme face à l'urgence climatique en prenant des accents extrêmement politiques. Voilà. Et il dit des choses très très fortes. Il dénonce l'inaction des gouvernements. Et en vrai, j'ai été assez bluffé par le ton, en fait, de ça, quoi. Voilà. Quelqu'un qui veut que je pousse mon coca, que ça le stresse. Regardez, moi, j'obéis tout de suite. Hein. Voilà. Bon, c'est pas le sujet le plus léger non plus, mais ça me semble important de le souligner pour vous le dire. Voilà, il y a un mouvement actuellement en Europe, au niveau de nombreux pays européens, pour durcir les conditions d'entrée des migrants dans ces pays. L'Europe s'entend, l'Europe, les pays européens entre eux arrivent à s'entendre aujourd'hui pour contrer la migration, j'ai envie de dire l'émigration. Les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, de droite, d'extrême droite, de gauche, s'accordent sur des mesures restrictives. On sent qu'il y a un mouvement général. Voilà. Et quelle que soit la couleur des gouvernements, eh bien, il y a un durcissement des conditions d'accueil des personnes immigrées, voilà, en Europe. Voilà, donc on lira ce dossier pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe, notamment chez nos voisins. Et puis désolé, je sais que certains n'en peuvent plus, mais je voudrais boucler ce thème des punaises de lit avec à la fois un petit dessin rigolo dans l'humanité et justement ce débat, est-ce qu'on en fait trop, hein, sur les punaises de lit. Voilà, donc on donnera la parole à un parasitologue et à un député Renaissance, voilà, sur ce sujet. Est-ce qu'on en parle trop, est-ce qu'on en fait trop, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, on finira là-dessus. Et puis on va souhaiter aussi, ah c'est bon, merci Gara de fait, Gara. Ouais, bonsoir Samuel, je te découvre sur ce réseau, j'apprécie tes lives, merci. Je me demande si tu traites également la presse internationale. Non, elle est passionnante, cette presse internationale, mais de même que je trouve la presse régionale passionnante en France, de même que je trouve la presse magazine passionnante en France, de même que je trouve la presse indépendante, indé passionnante en France, en fait, le problème c'est le temps, et donc j'ai choisi de m'intéresser surtout à une presse que je consomme énormément, que j'adore, qui est la presse quotidienne nationale, non pas parce que les autres presses ne sont pas intéressantes, mais parce que c'est mon projet, comme disait l'autre éditorial, mais le jour où j'aurai plus de temps, je vous proposerai d'autres choses. Le dernier article, c'est un nouveau journal, justement, qui naît là, dimanche prochain. La Tribune Dimanche se lance ce week-end. Voilà. Donc c'est un nouveau journal, le Dimanche, qui va concurrencer le Parisien Dimanche, le Journal du Dimanche notamment. Le Journal du Dimanche qui a changé radicalement de ligne éditoriale récemment, vous le savez. Qu'est-ce que c'est que ce journal? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'on va le lire? On va le lire. Je vais vous le lire. Alors je stream pas moi le dimanche matin puisque le dimanche soir il y a Simplay, mais lundi matin dans la revue de presse, enfin lundi soir plutôt parce que je suis en question pour un champion, je vous aurai lu bien sûr la Tribune Dimanche, je vais m'abonner et je vous lirai, je vous dirai qu'est-ce qu'il y a dans le journal, que, s'il est bien quoi. C'est un nouveau journal qui naît pour un amoureux de la presse écrite comme moi, ben c'est un petit kiff quoi, c'est un petit plaisir, donc j'irai vous le lire. Très bonne question de Nico Pradi 5, les anciens du Journal du Dimanche, 95% de la rédaction du JDD sont partis. 95% des journalistes du Journal du Dimanche ont préféré partir, parfois vers de la précarité, parfois vers pas d'emploi, plutôt que de travailler sous cette ligne éditoriale d'un nouveau directeur de la rédaction qui vient d'un hebdomadaire d'extrême droite. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, non, ils n'ont pas créé un nouveau journal. Ils essayent actuellement, à l'heure où on parle, de trouver des emplois, ce qui n'est pas difficile dans un secteur qui est un petit peu bouché. Certains se retrouvent à la Tribune Dimanche. J'ai vu d'autres réussir à trouver des emplois dans d'autres grands quotidiens nationaux que je lis. Voilà. Mais moi, j'ai une pensée émue pour ces journalistes-là qui étaient heureux de travailler au JDD. Et parce que leur actionnaire a décidé, pas du tout Sylvain, la presse, l'information n'est pas un produit comme les autres. Enfin, je l'ai dit un petit peu brutalement, mais Sylvain qui dit qu'il découvre le fonctionnement d'une entreprise privée où l'actionnaire fait ce qu'il veut, c'est bien pour eux. Non, l'information n'est pas un produit comme les autres. C'est-à-dire que une entreprise d'aspirateur qui change d'actionnaire, il y a de fortes chances qu'il continue à faire des aspirateurs, quoi. Ou alors des ouvre-boîtes, mais bon. Est-ce que c'est un grand changement? Un journal, ce n'est pas un... Tu ne vends pas des aspirateurs et tu ne vends pas des ouvre-boîtes. Tu vends, entre guillemets, un produit qui est essentiel dans une démocratie, qui est la liberté d'informer pour essayer d'expliquer aux citoyens ce qui se passe dans le monde dans lequel ils veulent. Donc c'est un petit peu différent quand même, ce n'est pas un produit, l'information comme les autres, ce n'est même pas un produit du tout. Et donc à un moment, quand des journalistes rejoignent une rédaction, ils rejoignent une rédaction parce qu'ils sont en accord avec ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Hein, c'est pas la couleur de l'aspirateur, c'est tout simplement la façon de faire du journalisme. Donc on est sur un positionnement qui est intellectuel en fait. Ils rejoignent cette rédaction et pas une autre, parce que c'est là qu'ils veulent bosser, parce qu'ils sont OK avec la ligne. Quand un actionnaire décide de changer radicalement la ligne éditoriale de ce journal, en gros, ça veut dire d'imposer à des journalistes de travailler dans un cadre intellectuel journalistique qui n'est pas celui qu'ils ont choisi. Voilà. Donc ce n'est pas des journalistes qui découvrent le fonctionnement d'une entreprise privée, ils savent très bien comment ça se passe, voilà. C'est autre chose. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une réflexion actuellement en France pour que la loi évolue et pour qu'un actionnaire ne puisse pas imposer un directeur de la rédaction sans l'aval, l'avis de la rédaction. Voilà. Ça, c'est une proposition de loi qui est en débat actuellement à l'Assemblée, par exemple. Ça n'est pas un produit comme les autres. Il y a des journaux où c'est déjà en place. Non, justement pas chez les Échos. Nico Pradi me dit c'est le cas chez les Échos, je crois. Non, justement chez les Échos, il y a eu un problème récemment parce qu'il y a eu un changement de directeur de la rédaction. Et je crois que la rédaction n'a pas pu se prononcer. Chez Libération, c'est le cas. Chez Le Monde, c'est le cas. Tu ne peux pas, dans ces journaux, sauf erreur de ma part, virer un directeur de la rédaction sans l'avis de la rédaction et embaucher un directeur de la rédaction sans l'avis de la rédaction. Voilà. C'est pas un produit comme les autres. Bon. On a ce débat un peu tous les jours, c'est un peu ma passion, mais je ne vais pas vous l'imposer. Voilà un petit peu pour le contenu qu'on va évoquer ce soir. On va sur une petite revue de presse. Ouais. Là, peut-être chez La Croix aussi, ouais. C'est pas impossible que chez La Croix, ça ressemblerait assez au fonctionnement de La Croix pour que ce soit pareil. Fallait, tout à fait. Hello tout le monde, j'ai raté 1h20, qu'est-ce que j'ai manqué? Écoute, je t'avoue que j'ai beaucoup discuté, j'étais très bavard, je vous ai beaucoup fait travailler ceux qui étaient déjà là pour m'aider à définir les sujets de demain dans l'Hebdo Étienne, et en fait on vient de finir le sommaire seulement, donc on commence la revue de presse. Alors tu as manqué nos échanges passionnants sur le contenu de l'Hebdo Étienne et de l'event de Zach Nani sur le skateboard auquel je participe. Cette phrase n'a aucun sens, samedi de 13h à 15h sur sa chaîne, mais sinon, pour la presse, c'est maintenant. Non, je l'esquive pas. Mais en fait, si, alors Sylvain, je pense que tu n'es pas sur cette chaîne depuis très longtemps. C'est juste que il y a Sylvain qui m'interroge sur l'argent public qui finance les médias. Tu dis sous perfusion, ouais, c'est vrai. En fait, il y a les médias en France reçoivent des aides, en fait, des aides qui ont diverses formes, aide à la distribution pour les journaux, voilà, enfin, c'est des subventions, voilà. Tout simplement parce qu'en fait, le modèle économique des journaux n'est pas un modèle économique très très puissant, et qu'en fait, la plupart des journaux ou perdent de l'argent ou n'en gagnent pas beaucoup. Donc, dans un régime, dans un pays démocratique comme la France, où on estime, alors à tort ou à raison, hein, que une presse diverses qui ne seraient pas livrées uniquement aux appétits des milliardaires et du capitalisme. Une presse diverse est importante pour l'expression de pensées les plus différentes possibles. C'est sain. Et donc, il faut soutenir la diversité de la presse, et ça passe par des aides publiques, comme plein de secteurs en France d'ailleurs, il n'y a pas que la presse qui est subventionnée ainsi. Concrètement, s'il n'y avait pas ces aides, il y a plein de journaux au modèle économique hyper fragile, puisque faire de l'info, c'est très cher, et ça ne rapporte pas forcément beaucoup, notamment en presse écrite, il y a plein de journaux qui n'existeraient pas, voilà, depuis longtemps, que ce soit en presse nationale ou en presse régionale. Et il resterait quoi? Il resterait uniquement à 100%, les journaux totalement dirigés par des milliardaires ou d'énormes groupes, quoi. Et sans qu'il y ait des médias à côté qui puissent faire entendre d'autres idées, quoi. Voilà. Voilà, tu peux, voilà, y a Call Team qui parle de l'Humanité, par exemple. L'Humanité, c'est un journal qui est dans la dèche tout le temps. Alors, on n'aime pas l'Humanité. Moi, j'aime lire l'Humanité parce que c'est un journal différent des autres. Évidemment, ce n'est pas les analyses du Figaro, ce n'est pas l'analyse de la Croix, c'est pas l'UMA, on valide ou pas, mais moi, je lis plein de journaux différents parce que je veux plein d'avis différents sur l'actu. Et j'aime lire l'UMA. Bon, ben, sans, un, les aides publiques, deux, les soutiens des lecteurs qui, en plus d'acheter le journal et s'abonner, en fait, donnent régulièrement de l'argent à l'Humanité, hein, qui est un journal un peu sous perfusion, ben, il n'y aurait pas l'UMA. Ben, moi, ça me ferait chier. Qui n'est pas l'humain. Je serais triste. Je serais triste. Il n'y a déjà pas beaucoup de journaux en France. Hein. Pardon. Hein. Je vous ai parlé des journaux nationaux. Le Monde, Le Parisien, Libé, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe, pour les journaux nationaux, c'est pas énorme hein, comme diversité. Hein. Alors après, on peut supprimer toutes les aides. Il va rester... Il va rester deux journaux, un journal, peut-être plus, pas de journaux d'ailleurs, je sais pas. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée, en fait. Après, vous pouvez décider de vous informer uniquement sur les pages. Je vais être provocateur exprès. Hein, sur les chaînes d'info en continu, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les chaînes d'info en continu soient le meilleur outil pour s'informer. Voilà, je le sais parce que j'en ai beaucoup fait. Donc, je parle en connaissance de cause. Je pense que c'est pas forcément un progrès. La chaîne d'info en continu, hein. Cette impression qu'on veut vous donner qu'il se passe toujours quelque chose d'important, c'est pas vrai. Voilà. Et puis avec des infos qu'on met en avant, en abîme, en essayant de vous faire croire quelque chose pour créer de l'audience, je suis pas sûr, espèce de maelstrom des mauvaises nouvelles. Donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour s'informer. Je suis pas sûr non plus que Internet, où on n'identifie pas toujours les sources d'informations qui nous parlent, soit le meilleur endroit pour s'informer, sauf quand la source est identifiée et claire. En revanche, c'est ma conviction, mais ce n'est que ma conviction et que ça ne vaut que ça, et je peux me tromper. Moi qui consomme de l'actu depuis un moment, pour moi la meilleure source d'information, c'est la presse écrite. Voilà, c'est ma petite conviction à moi. Je trouve que l'information de la meilleure qualité aujourd'hui en France, c'est l'information que propose la presse écrite. C'est la plus diverse, c'est la plus, voilà, elle est multiple, elle est diverse. C'est une presse qui prend le temps, qui n'est pas dans la course à la dernière info, puisque même si beaucoup de ces médias ont des sites internet maintenant, eh bien, l'essentiel de leur vente, c'est encore le format papier ou le journal que vous téléchargez. Voilà. Donc en gros, entre deux journaux, il y a quand même 24 heures de réflexion. Donc c'est un média qui prend un peu plus le temps de la réflexion, qui va un peu plus loin, qui va un peu plus profondément dans l'actualité. Hein. Quelqu'un un jour a calculé que si vous rentriez le contenu d'un quotidien dans un journal de 20 heures, quoi, si vous transformiez le contenu d'un quotidien comme, je sais pas moi, le Figaro, dans un JT, le JT il dirait 5 ou 6 heures. Parce qu'en fait, c'est un contenu qui est beaucoup plus complet, qui est beaucoup plus riche. Voilà. Alors après, moi, c'est ma conviction, mais peut-être que je me trompe. Hein. Alors si vous partagez ma conviction, ou un petit peu, si vous pensez que dans une démocratie, il faut une information diverse et il faut une information de qualité qui peut être une information de presse écrite, ben, cette presse écrite, il faut la soutenir parce qu'économiquement, elle ne se porte pas bien. Voilà. La radio, il y a des choses très très bien aussi. Bon, après, moi, je suis un amoureux de la presse écrite, alors j'ai un biais là-dessus, hein, j'ai un biais. Oui, alors, mais oui, très, très bien, mais t'as raison, Sylvain. Mais en fait, tu prends un petit bout du sujet. C'est-à-dire que tu dis, Mediapart fait un très bon boulot sans argent public. Mais c'est vrai, Mediapart fait un très bon boulot. Mais Mediapart ne fait pas de l'info au quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'informer au quotidien sur l'actualité. Hein, c'est ce que je vous propose à travers la lecture quasi quotidienne de la presse, pour savoir au quotidien ce qui se passe d'important. Mediapart, c'est pas du tout un média d'information générale, c'est un média qui à la base déjà est spécialisé dans l'actualité des médias. Mediapart, à la base c'est ça. Donc c'est un média qui s'intéresse au fonctionnement des autres médias. Bon, ok. Et puis après c'est un média qui a grandi et qui fait énormément d'enquêtes sur des sujets précis. Donc à un moment ils isolent un sujet, ils disent « Oh là là, il y a un souci, il y a un truc à creuser. » Et donc, ils enquêtent, ils cherchent un petit peu la petite bête. Il y a un gros travail d'enquête qui est souvent un travail de qualité dans Mediapart. Mais ce n'est absolument pas un journal que vous prenez en vous disant « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui d'important dans le monde ?» Non, vous allez trouver une enquête sur tel sujet, puis une enquête sur tel sujet. des sujets très divers, mais vous n'avez pas du tout sur Mediapart, comme dans les journaux que je lis, l'ensemble de l'actualité à un instant T, ce qui moi m'intéresse. Hein. Donc c'est, la question n'est pas de savoir si c'est pas un travail de qualité, c'est juste que c'est pas un travail d'information quotidien comme moi ça m'intéresse. Donc moi je lis Mediapart par exemple, mais je l'inclus pas dans ma revue de presse parce que c'est pas ce que je vous proposais. Parce que Mediapart couvre pas l'actualité du quotidien comme moi j'aime la suivre. Quoi. Voilà. Et on pourrait dire ça de plein d'autres sites internet très intéressants, très indépendants et sans pub. Quoi. Bah, Mediapart paraît tous les combien, la question de Canal est intéressante. Mediapart ne paraît pas, parce que Mediapart est un média 100% internet en fait. Donc il n'y a pas de sortie de Mediapart, c'est un peu tout le temps, il y a des articles qui sont postés quoi, comme ça. Et pourquoi Mediapart n'est pas un journal d'information quotidien? Parce que ça coûte une blinde. Parce qu'en fait, pour avoir une rédaction suffisamment importante... Ah merde, oh, j'ai pas vu le gentil raid de Taïwan, pardon. Je vais le remercier. Merci Val Taïwan. Pour, en fait, avoir une rédaction suffisamment importante pour couvrir l'ensemble de l'actualité politique, économique, sociale, économique, sportive, tech, culture, bah, il te faut une rédaction de 100, de 200, de 300 journalistes. Et ça, ça coûte une blinde, le fameux modèle économique dont je vous parlais, qui est un petit peu fragile. Mediapart n'a pas une rédaction de 100, 200 ou 300 journalistes. Donc, en fait, tout simplement, donc c'est pas du tout l'objectif du journal. Quoi. Je remercie le raid qu'on a reçu de Val Taïwan. Hop, 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 hop. Ici, merci pour le raid. Hop. Excusez-moi, je suis sur ta musique d'intro. Journaliste animateur pour la... Hey, génial. Pour la radio publique taïwanaise, Radio Taïwan International en français, correspondant à RFI. Mais j'ai travaillé 5 ans à RFI. C'est un confrère. J'ai appris mon métier à Radio France Internationale. À Paris, qui était à Paris. Et donc, Val Taïwan est notamment correspondant pour RFI. Ça me rappelle mes jeunes années. Concept d'information augmentée. Mais ici aussi, on en parle. Visiter Taïwan tout en discutant avec moi de l'actualité de la culture taïwanaise. Mais c'est génial. J'espère que je te suis. Je te suis même pas. Maintenant, je te suis. Merci beaucoup pour le raid et puis pour ce que tu fais parce que, en vrai, l'offre a l'air super intéressante, quoi. Là, je vois que tu as un stream IRL. Là, qui, ah, donc manifestement, ton dernier... Ah non, c'est pas un stream IRL. Non, si, si, tu t'es en resto, là. Tu t'es posé en resto. Trop bien. Trop bien. Eh bien, cher confrère, merci beaucoup du raid. Et puis maintenant que je te suis, quand j'aurai du temps, j'irai voir un petit peu ce qui se trame sur ta chaîne. Merci beaucoup. Silta, merci pour l'abonnement offert à Val Taïwan, justement. Moi aussi, je te love, Keops, bien sûr. Merci. Ah, Sylvain, ça me fait plaisir. Sylvain, avec qui on a eu un échange, là. Alors, bah, c'est très frustrant parce que je vois beaucoup de questions, en vrai, passionnantes, intéressantes dans le chat. Et vous avez bien compris que je ne peux pas répondre à toutes les questions, notamment parce que sinon, bah, je n'arrive jamais à ce que je veux faire, c'est-à-dire, par exemple, essayer de lire les journaux. Et je finirai par discuter pendant des heures, et les gens me diraient, bon, Samuel, il est gentil, mais en fait, il ne lit pas les journaux, hein, c'est juste un gros bavard. Donc, souvent, c'est frustrant, parce qu'il y a des questions intéressantes auxquelles je ne réponds pas, et puis parfois, des débats intéressants qu'on pourrait lancer, mais sauf que je les stoppe, parce que je n'ai pas le temps de le faire. Sylvain qui écrit, merci du débat intelligent, je ne suis pas d'accord sur le fond, parce que beaucoup de pays font vivre la presse sans argent public, mais c'est un mal français qui ne concerne pas que la presse, je vois ce que tu veux dire. Après, en France, on a un autre regard sur ces choses-là. Quoi. Ok, allez les amis, on est parti pour la petite revue de presse du soir. Pour ceux qui sont surpris de me voir le soir, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste que quand je fais question pour un champion, je ne peux pas streamer le matin. Alors, pour être là quand même et tenter d'être un vrai streamer, je stream le soir. 1h31 de bonjour, c'est parti pour cette petite revue de presse. Macron, donc, qui relance le débat, le chantier de la réforme constitutionnelle. C'est pas la première fois qu'il en parle. Je crois que lors de son premier quinquennat, eh bien, il avait essayé de le faire et puis il n'avait pas réussi, interrompu de mémoire peut-être par la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron donc retente sa chance, nous dit le Parisien. vouloir mener à son terme la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle sur le référendum, sur le champ d'application du référendum, sur le référendum d'initiative partagée, qui est très très dur à mettre en place, hein, qui pourrait être plus facile, sur l'inscription de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, davantage de décentralisation. Voilà, ce seraient les sujets possiblement de cette réforme. Sur l'élargissement du champ d'application du référendum, c'est-à-dire le fait de pouvoir convoquer un référendum sur tel ou tel sujet, des sujets plus nombreux qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron estime, puisqu'il a fait un discours récemment, qu'il existe encore des domaines importants pour la vie de la nation qui échappent au champ de l'article 11 de la Constitution. L'article 11 de la Constitution qui détermine justement quels sont les thèmes qui peuvent être traités par référendum. À ce jour, rappelle Le Parisien, cet article permet de recourir au référendum pour modifier la loi sur trois thèmes précis. Les réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation, l'organisation des pouvoirs publics, les services publics qui y concourent. On ignore, c'est pour ça que c'est très flou. Le président Macron a donné un cadre, mais pardon, hein, sans lui faire offense, c'est un cadre extrêmement flou, c'est ce que disait Libération hier. On ignore en comment cette réforme sera articulée, ni jusqu'où le champ d'application du référendum sera étendu. Par exemple, vous prenez la droite ou l'extrême droite en France, eux, ils voudraient, ils réclament depuis longtemps d'ailleurs, qu'on puisse faire en France un référendum sur la question migratoire. Eh bien aujourd'hui, ça n'est pas possible, en raison de l'article 11 de la Constitution. Est-ce que le président Macron serait prêt à élargir l'article 11 pour que les Français puissent se prononcer sur la politique migratoire? Ben ça, on ne le sait pas pour l'instant. La parole à Boris Vallaud, qui est un député socialiste. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut faire, vous? Parce que moi, non, dit le patron des députés socialistes. J'ai trouvé ça très flou. Ce mercredi, donc c'était hier, Emmanuel Macron a pourtant bien tenté de faire également plaisir à la gauche, plaidant pour l'assouplissement de la procédure du référendum d'initiative populaire, donc un petit coup à droite, hein, avec l'élargissement des sujets possibles éventuellement du référendum, et puis un petit coup vers la gauche, avec un président Macron qui a plaidé pour l'assouplissement de la procédure du RIP, hein, le référendum d'initiative populaire, qui a été mis en place en 2018, je crois, ce RIP, mais qui est très compliqué à mettre en place, tellement compliqué, ce référendum d'initiative populaire, ce référendum dont l'initiative vient du peuple, des électeurs, des citoyens, tellement compliqué qu'en fait il n'a jamais été mis en place. Je vous rappelle les conditions: pour être déclenché, il doit recevoir l'appui d'un cinquième des membres du Parlement, d'abord ça, ensuite un dixième des électeurs en France, donc c'est énorme. C'est populaire, c'est référendum d'initiative populaire. Le référendum d'initiative partagée, c'était avant, c'était encore un autre truc. On est d'accord. Ou alors c'est l'inverse, et c'est Le Parisien qui a fait une coquille? Vous pensez? Parce qu'en fait, il y a eu les deux. Là, peut-être que Le Parisien fait la faute. Moi aussi, je le fais parfois. Le RIP. Parce qu'il y a eu les deux. Non, pas le RIB. Attends, je vais... Le Parisien dit populaire. Mais peut-être que c'est plus populaire, c'est partagé. Référendum d'initiative, je crois que vous avez peut-être raison, Le Parisien a tort. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le Parisien, comme moi d'ailleurs, se trompe, parce que moi régulièrement je fais la faute. Alors bon, je suis surpris que Le Parisien se trompe, mais ça arrive, voilà, c'est une activité humaine et faillible, et je vous le dis souvent, les journalistes font des erreurs, en soi c'est pas grave, voilà, il y a un petit manque de rigueur ici. Et effectivement, le Parisien se trompe en parlant de l'assouplissement de la procédure du référendum d'initiative populaire. Rappelons que pour être déclenché, le RIP doit recevoir donc l'appui d'un cinquième des membres du Parlement, puis un dixième des électeurs, ce qui est énorme, c'est tout simplement jamais arrivé. Ces conditions n'ont jamais été remplies. On ne sait pas ce qu'il veut faire, poursuit Boris Vallaud, le député PS des Landes. Flou donc, Libération le disait hier, Le Parisien le répète aujourd'hui, flou qui vient sans doute, et là vous allez tout comprendre, du fait qu'Emmanuel Macron marche sur des œufs. Une modification constitutionnelle implique nécessairement de trouver une majorité au Parlement. Ben, il n'a pas de majorité au Parlement. Il n'en a pas à l'Assemblée et il n'en a pas au Sénat. Soit il soumet son projet à un vote du Congrès. Le Congrès, c'est le rassemblement de l'Assemblée et du Sénat, justement pour une réforme constitutionnelle. Et dans ce cas-là, il faut un vote aux 3/5 des parlementaires, ce qui est énorme. Soit il opte pour un référendum constitutionnel, il vous demande, électeurs citoyens, de vous prononcer, Mais les termes du référendum doivent être adoubés, validés par les députés et les sénateurs, et on revient au problème de la majorité. C'est adorable. Il y a Loxane qui écrit dans le chat, j'ai déjà un melon, mais ça va continuer encore plus gros, qui écrit « je ne suis pas d'accord avec tes opinions, je ne les partage pas, mais je t'ai toujours apprécié en tant que journaliste, surtout maintenant que tu as plus de liberté, merci et bon live. » Loxane, je lis ton message pour une raison bien précise, parce que je suis fier de ça. C'est-à-dire que parfois, moi j'ai noté qu'un créateur de contenu, volontairement ou malgré lui, se formait autour de lui une communauté qui, pour l'essentiel, était d'accord avec lui sur l'essentiel. Hein ? Sur l'essentiel. On fait communauté, et c'est bien d'ailleurs. Et on est bien ensemble et on partage des bons moments. Comme moi, ma démarche, ce n'est pas qu'une démarche de divertissement, mais une démarche d'information, depuis le début, j'appelle aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et de toute obédience, à venir quand même. Voilà. Pas pour des raisons d'audience, mais parce que c'est sympa. Et c'est important d'avoir un cadre d'échange, d'argumentation, aussi et surtout quand on n'est pas d'accord. Parce que je crois que le début de la fin, le début des problèmes, c'est quand, non pas on n'est pas d'accord ensemble, mais qu'on n'arrive plus à en parler. Bon, je ne cache pas que je n'ai pas de sympathie particulière pour les idées d'extrême droite, mais j'aime bien l'idée que des gens qui soient sur ces prises de position viennent quand même discuter avec moi. Voilà, je prends cet exemple, je pourrais en prendre plein, quoi. J'aime bien cette idée, voilà, qu'on puisse parler de nos différences, pas forcément pour se convaincre, voilà, parce que c'est pas forcément en quelques échanges sur Twitch qu'on va se convaincre, mais qu'on puisse un petit peu écouter les arguments des autres et se rendre compte que les situations sont parfois plus complexes qu'on le croit. Et voilà. J'aime bien cette idée. Loxane, c'est pour ça que ton message m'a un petit peu touché. Il y a Mix qui écrit « Bonsoir, je te déteste cordialement aussi. » J'adore. J'adore. Donc, vous l'avez compris, une réforme constitutionnelle, c'est très compliqué quand tu n'as pas de majorité à l'Assemblée et que tu n'as pas de majorité au Sénat. C'est pour ça que, personnellement, je suis assez pessimiste sur la capacité du président Macron à réussir une réforme constitutionnelle au cours de ce deuxième mandat. La méthode, d'ailleurs, laisse perplexe jusqu'au sein des rangs macronistes. C'est un pétard mouillé, regrette un député de la majorité. J'ai du mal à voir comment il peut aller au bout en majorité relative. Vous voyez, même au sein de la majorité, on dit la même chose. Bolsan, merci beaucoup pour ce 10e mois d'abonnement, alors que nous avons déjà échoué en majorité absolue. Pour résumer, c'est un peu flou. Et il y a peu de chances que ça arrive au bout. Peut-être que je me trompe, mais dans ce cas-là, on suivra le sujet. Et je vais encore parler du pape. Oh là là, putain Samuel, hier tu nous parlais du synode de l'Église catholique, aujourd'hui du pape sur l'environnement, mais franchement, arrête de lire la croix. Je vous avoue que sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que le pape François a à nous dire sur l'environnement en vrai? Est-ce que c'est vraiment important de savoir ce que le pape François pense de la question écologique? Voilà. Et j'ai lu ce dossier de la croix, sur ce texte que vient de publier le pape sur le sujet, et en fait j'ai trouvé ça passionnant. Voilà. Donc je me suis dit, je vais le partager avec vous. La Condamine 46, merci pour ce 22e mois, bon voyage depuis Biarritz. Alors de quoi s'agit-il? Le pape François a donc publié mercredi, c'est pas vieux, mercredi 4 octobre, une exhortation apostolique sur le climat, Laudate Deum, c'est du latin, dans ce texte pédagogique, le pape, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la sonnette d'alarme face à l'urgence climatique, prenant des accents très politiques. Il y a quelqu'un qui me dit, Oloz, le pape, il fait de la politique, non? Ouais, il fait de la politique. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. La politique, c'est quoi? La politique, c'est s'intéresser à la vie dans la cité. La politique, c'est pas les ambitions des uns des autres, les magouilles, les machins. La politique, ça devrait être uniquement comment on arrive à inventer des règles pour vivre ensemble malgré toutes nos différences, dans une société, dans un pays, dans un continent, etc. La politique, c'est ça. Que le pape, dont la fonction est notamment de réfléchir à l'état du monde, nous donne sa vision du monde dans lequel on vit, moi, ça m'intéresse, en vrai, voilà. Éclairé par les valeurs qui sont les siennes, qui sont les valeurs chrétiennes et catholiques. Du coup, ouais, c'est de la politique, et ça me va. En vrai. Avant la COP28 qui s'ouvre le 30 novembre, le pape François replace l'écologie au centre et cherche à s'adresser au plus grand nombre, lisons ce sujet. Cette nouvelle exhortation apostolique entièrement dédiée à la crise climatique se situe dans le droit fil de la grande encyclique verte et sociale du pape Laudato Si, publiée en 2015, mais cette fois comme saisi par un sentiment d'urgence sans cesse renforcé. Et dans un propos beaucoup plus politique, il tire encore plus fort sur la sonnette d'alarme. « Je me rends compte au fil du temps que nos réactions sont insuffisantes », dit le pape. Il estime que le monde s'approche peut-être d'un point de rupture. Dans un texte très pédagogique, ainsi que certains ont surnommé, après la sortie de son encyclique, le pape vert, s'élève fermement contre les climato-sceptiques, hein, déjà, à ceux qui contestent et ont tenté de se moquer de la réalité du réchauffement climatique et de ses conséquences, François développe un véritable exposé, s'appuyant largement sur les rapports du GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le pape qui écrit « On ne peut plus douter de l'origine humaine anthropique du changement climatique », mentionnant notamment la concentration des gaz à effet de serre, la fonte des pôles et l'acidité des mers. Appelant à un changement culturel indispensable, selon lui, il attire aussi l'attention sur les actions individuelles, passant notamment par la modification des habitudes personnelles, familiales, communautaires. Toutefois, dit le pape, s'il nous appelle tous à changer nos comportements, toutefois, dit-il, il faut être sincère et reconnaître que les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement d'efforts individuels, mais avant tout des grandes décisions des politiques nationales et internationales. Dans ce texte d'une centaine de pages, le pape François égratigne les responsables politiques et économiques occidentaux, considérés en partie comme responsables de la crise actuelle. Il y a Nico Pradi qui dit « Incroyable de voir le pape tenir des propos progressistes et réformateurs ». Pas tant que ça, en fait. Hein. Alors évidemment, pas sur tous les sujets, mais en fait, les papes de ces dernières décennies, sur les questions sociales, par exemple sur les questions économiques, moins sur les questions de société, hein, vous l'imaginez bien, et aujourd'hui sur les questions environnementales, en fait, ont des discours extrêmement progressistes. Extrêmement progressistes. Il fustige les privilèges de quelques-uns ayant davantage de pouvoir et condamne les responsabilités non prises des secteurs politiques et l'indignation face au désintérêt des puissants. Si nous considérons, il est très clair, hein. Écoutez, si nous considérons que les émissions par habitant aux États-Unis sont environ le double de celles d'un habitant de la Chine et environ 7 fois supérieures à la moyenne des pays les plus pauvres, eh bien nous pouvons affirmer, dit le pape, qu'un changement généralisé du mode de vie occidental aurait un impact significatif à long terme. Ça a le mérite d'être clair. Face à l'inaction politique qui l'exaspère, le pape laisse apparaître une forme de sympathie pour les groupes d'activistes. Alors là, ça va beaucoup plus loin. Il laisse apparaître une forme de sympathie pour les groupes d'activistes souvent décrits comme radicalisés, vous savez, les gens, notamment qui se mettent en travers des routes, par exemple, et qui mènent des actions en marge des COP. Il comble un vide, dit le pape, de la société dans son ensemble qui devrait exercer une saine pression. Voilà. Étonnant, hein ? Je continue et puis je vous lis, bien sûr. L'auteur de Laudate Deum, donc le pape, prend des accents décroissants aussi, critiquant, comme il l'avait déjà fait dans le Laudato Si, l'idée d'une croissance infinie ou illimitée qui a enthousiasmé beaucoup d'économistes, de financiers, de technologues. Dans cette veine, il s'oppose aussi à l'idée selon laquelle la crise climatique pourrait être résolue ou contournée par la technique, qui est un petit peu le discours du président Macron, par exemple. Qu'espérer dans ce contexte, et alors que doit s'ouvrir fin novembre une nouvelle COP, la COP 28, je crois, aux Émirats Arabes Unis, bon, ce qui est un petit peu particulier, un des premiers pays producteurs de pétrole au monde, eh bien le pape François en parle. Dire qu'il n'y a rien à espérer, comme on l'entend parfois, serait un acte suicidaire qui conduirait à exposer toute l'humanité, en particulier les plus pauvres, les plus fragiles, aux pires impacts du changement climatique, parce que ne nous trompons pas, ceux qui vont payer le prix le plus cher des changements climatiques, ce sont les plus modestes, ce sont les plus fragiles, ce sont les plus pauvres. Et nul besoin d'être chrétien ou catholique pour le penser, pour le savoir, pour le constater. Avant de poursuivre, nous devons cesser de sembler être conscients du problème, mais n'ayons pas dans le même temps le courage de faire des changements substantiels. Pour le pape, le doute n'est pas permis, il faut agir, et il faut agir sans délai. C'est la vision du pape sur les changements climatiques. À vous ! De Kid qui dit « J'aime bien The Pape, je suis très étonné. » Ouais, bah c'est vrai que c'est assez étonnant. Dépasser la situation actuelle grâce à la technologie. Il y a Colt qui dit « Mais est-ce qu'il y a une autre solution ?» Bah, peut-être moins consommer. C'est ce que certains appellent la décroissance. Est-ce qu'on a besoin de consommer autant ? Est-ce qu'on a besoin de consommer toujours plus ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours une plus grosse voiture, d'aller plus vite, de faire plus de trucs ? Peut-être, je sais pas, peut-être pas. Peut-être pas, c'est un peu ce que dit le pape là. Je vous lis. Je valide la vanne de machin, en vrai, elle est bonne. Machin qui a écrit l'avantage des trucs catholiques, c'est quand le niveau de la mer sera trop monté, on pourra toujours marcher sur l'eau. Elle est bonne. Je valide la blague de Canal, vous êtes très en forme. Est-ce qu'on peut dire que les gens de la sécurité du pape s'appellent la pape patrouille? Ça valide, ça valide. Merci Alexander et coucou à l'Allemagne. Ouais, intéressant, hein? Bon, mais je suis content de vous l'avoir lu cet article parce que je vois que ça vous a intéressé. Allez, on enchaîne avec encore le sujet qui n'est pas des plus souriants, mais parfois je m'oblige à vous lire des actualités dont je me dis qu'elles ne sont pas très réjouissantes, mais qu'elles me semblent quand même essentielles. Et là, par exemple, c'est ce mouvement général en Europe de durcissement de la politique contre les immigrés pour empêcher les gens de s'installer dans les pays européens. Et c'est un mouvement général, c'est un dossier dans le monde assez complet. Dans la dernière édition du Monde, si vous le cherchez, l'Europe s'entend pour contrer la migration. Les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, s'accordent actuellement sur des mesures restrictives. L'augmentation du nombre de demandes d'asile, 28% de plus au premier semestre, les gouvernements européens, eh bien, répondent globalement par un durcissement des discours, et pas seulement des discours, des décisions. La question des migrations au menu du Conseil européen qui va se tenir à Grenade en Espagne le 6 octobre, donc le 6 octobre c'est demain, facteur de dissension dans l'Union européenne depuis la crise des réfugiés de 2015, donne lieu depuis quelques semaines à des convergences, naguère, salut Bruno, des convergences naguère inenvisageables. De manière significative, par exemple, l'Allemagne, qui s'y refusait jusque-là pour des raisons humanitaires, a donné son feu vert jeudi 28 septembre à un texte clé de la réforme du système migratoire européen, ouvrant la voie à un accord global entre les 27 sur le sujet, un document qui prévoit un régime dérogatoire moins protecteur, merci des cadres, pour les migrants en cas d'afflux massif dans un pays. La Commission espère que l'ensemble du pacte pour les migrations et l'asile, une dizaine de règlements qui réforment les procédures d'accueil aux frontières, de traitement des demandes d'entrée et des retours, aura été adopté d'ici à février 2024, avant les élections européennes qui vont se dérouler en juin. Il aura fallu aux 27 4 ans de négociations, de controverses et finalement de rapprochement aujourd'hui pour y parvenir. Le revirement de l'Allemagne, de Berlin, dont parle Le Monde, est symptomatique, estime le journal, du changement de discours outre-Rhin. Allons-nous encore y arriver? Pouvait par exemple titrer Spiegel le 23 septembre, en référence au fameux « Nous y arriverons » qui avait été lancé par la chancelière Angela Merkel le 31 août 2015 pour justifier alors sa politique généreuse d'accueil des migrants qui fuyaient le Moyen-Orient pardon, en guerre. Donc à l'époque, en 2015, on disait, Angela Merkel disait « On va y arriver ». Aujourd'hui, la question en Allemagne, c'est « Allons-nous encore y arriver ?» Krisk, merci pour le troisième mois d'abonnement. Il y a quelqu'un qui dit comment ça se fait que ce soit l'Allemagne qui donne son feu vert, Colt. En fait, non, c'est pas ça. En fait, il y avait déjà une majorité de pays européens qui voulaient durcir les conditions d'accueil des immigrés et l'Allemagne, pour des raisons humanitaires, disait non. Et en fait, c'est la fin de l'opposition de l'Allemagne qui permet, a priori, cet accord européen. C'est pas l'Allemagne qui emmène les autres vers un durcissement des règles migratoires, c'est l'inverse. C'est l'Allemagne qui résistait, justement, et qui vient de lever la garde. 8 ans plus tard, donc, les lignes ont bougé. Le nombre de réfugiés qui cherchent à venir actuellement en Allemagne est trop élevé. Qui a dit ça? Eh bien, c'est tout simplement le chancelier social-démocrate allemand Olaf Scholz. Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, qui n'était pas représenté au Bundestag en 2015, par exemple, compte désormais 78 députés, et c'est beaucoup, dépasse les 20% d'intention de vote, soit le double de son résultat de 2021. Face à une droite à l'offensive et une extrême droite en pleine poussée, Olaf Scholz est sous pression. Nitroy, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, c'est que factuellement c'est faux. Nitroy qui écrit « Ah voilà, les Allemands soutenaient l'immigration quand c'était chez les autres, et là ça les embête pas du tout, l'Allemagne a accueilli, les chiffres le disent, beaucoup plus d'immigrés que nous, par exemple en France. Si on avait fait le même effort, tu pourrais dire ça, mais les Allemands ont accueilli beaucoup plus de gens que nous. » Et notamment venant du Moyen-Orient dans les années 2015, c'est vraiment sans commune mesure. Face à une droite à l'offensive et à une extrême droite en pleine poussée, Olaf Scholz, donc le chancelier, est sous pression. Et c'est pas parce qu'on est en Allemagne qu'on parle de bière, parce que je vois que certains sont sur la blague, je valide. À l'inflexion allemande s'ajoutent des convergences inattendues, comme celle mise en avant par exemple par Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Hein, le 26 septembre à Rome, Giorgia Meloni, c'est la présidente du Conseil italien. Convergence inattendue. Le 26 septembre, l'Elysée a fait état d'une vision partagée par les deux gouvernements de la gestion de la question migratoire. Je veux qu'on travaille avec la présidente du Conseil italien, a déclaré le président français. Voilà. La question migratoire a dominé la première année du gouvernement de Mme Meloni. Elle a promis de mettre fin aux flux illégaux en très nette augmentation. Rome a multiplié les normes restrictives. Après le pic d'arrivée des migrants à la mi-septembre à Lampedusa, un décret a été adopté censé faciliter les expulsions. Dans plusieurs cas, il prévoit de rendre plus aisés les contrôles d'âge et de punir par l'éloignement les personnes se déclarant faussement mineures. Cette convergence France-Italie vers une politique plus restrictive n'empêche pas les gouvernements les plus radicaux en Europe de dénoncer la mollesse supposée de l'UE. Donc Le Monde décrit un durcissement général des mesures contre les migrants, et pourtant il y a des pays qui trouvent que ce n'est pas assez, comme la Pologne. Salut Suzanne, ouais, on est sur un sujet un peu sérieux. En Pologne, les ultra-conservateurs au pouvoir élus en 2015 agitent la menace des migrants imposés par Bruxelles et ont de nouveau placé la thématique migratoire au cœur de leur campagne pour les législatives du 15 octobre. En Suède, autre exemple, depuis la victoire il y a un an de la droite et de l'extrême droite aux élections législatives, bien la coalition gouvernementale, où il y a les conservateurs, les chrétiens démocrates, les libéraux et l'extrême droite, multiplie les annonces visant à réduire autant que possible les arrivées et accélérer les départs. Alors, un durcissement général, mais il y a un petit bémol, et après je vais vous lire sur ce sujet compliqué. Ces politiques restrictives, se heurtent dans certains pays aux besoins du marché du travail. C'est le cas en Finlande, où asile et immigration ont fait partie des sujets les plus épineux pour la nouvelle coalition, composée du parti de la coalition nationale, donc les conservateurs, et de l'extrême droite dite des vrais Finlandais, des chrétiens démocrates et du parti du peuple suédois. Ça, c'est le centre. D'un côté, vous avez l'extrême droite qui exige des restrictions drastiques, donc on parle de la Finlande, tandis que les autres formations de la coalition ont insisté pour maintenir les frontières ouvertes pour les travailleurs immigrés, alors que le pays est en manque de main-d'œuvre. Le Danemark, autre exemple, qui dispose d'une des législations les plus restrictives d'Europe, se demande s'il n'est pas allé trop loin. Depuis des années, les entreprises réclament l'assouplissement de certaines règles, les empêchant de recruter à l'étranger. Les parlementaires ont finalement cédé à la pression. Le 1er décembre 2022, la rémunération minimale pour obtenir un permis de travail a été diminuée. En Grèce, enfin, dernier exemple, un projet de loi devrait bientôt être présenté pour permettre aux 300 000 migrants qui vivraient illégalement dans le pays de travailler dans l'agriculture, dans le tourisme, des secteurs qui peinent à recruter. Je vous lis un petit peu sur ce sujet. On ne fait pas attention à la pub pour Dolce & Gabbana, on s'en fout, bien sûr. C'est même un peu bizarre. Parfois, c'est con, mais parfois, c'est bien dans un journal que la régie pub et la rédaction soient totalement séparées. En aucun cas, les pubs achetées par tel ou tel annonceur doivent influer sur le contenu du journal. Alors, c'est tellement séparé que parfois, on sent qu'ils ne se parlent pas beaucoup. Mettre une photo de mode Dolce & Gabbana sur un papier sur le durcissement de la politique migratoire en Europe, c'est pas forcément le truc le plus foufou. Mais bon, ça montre juste que les deux services se parlent pas trop, et en vrai, c'est pas si mal. Alors sur l'immigration, ce sujet ô combien compliqué. Alors, on lit Préhistoire à propos de Giorgia Meloni, dit présidente fasciste italienne. Présidente, non, elle est présidente du Conseil, puisque elle n'est pas présidente, parce que c'est un poste qui n'a pas on n'a pas l'équivalent chez nous. Elle est chez le chef du gouvernement, quoi. Alors, fasciste, effectivement, là, c'est un débat très intéressant qu'on a beaucoup évoqué ici. Elle a été fasciste, hein, clairement. Hein. Elle a fait partie des jeunesses mussoliniennes en Italie, donc on peut dire que c'est fasciste. D'ailleurs, elle a eu des mots sur Mussolini dans sa jeunesse extrêmement clairs. Alors, elle a changé, son discours a changé. La question aujourd'hui est de savoir si, c'est la seule question intéressante d'ailleurs, est-ce qu'elle mène une politique d'extrême droite à la tête de l'Italie ou est-ce qu'elle a adapté son discours et sa politique au pouvoir? Ça, j'ai pas la réponse. Mais effectivement, dans son passé, il y a clairement des prises de position fascistes. Oui, certains disent néo-fasciste, certains disent non, elle est à droite. Maintenant, bon, ça c'est un débat. C'est un débat qu'on ne tranchera pas ici, mais c'est un débat intéressant. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, c'est à lire dans Le Monde. Allez, je vous remets une petite couche, et je pense que c'est la dernière couche que je vous mets. Elle est bizarre cette phrase. Sur les punaises de lit, c'est vrai qu'on n'en peut plus. Hein, voilà. Je ne vous ai pas lu 1000 articles. Hein. Ces dernières semaines, je vous ai lu 2 articles sur les punaises de lit. Donc ceux qui accusent les médias d'en avoir fait des caisses sur les punaises de lit, j'en ai pas fait des caisses. J'en ai un peu lu, mais pas plus. On finit cette séquence punaise de lit, justement avec cette question, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que les médias en font trop? Les autorités aussi, hein, puisque les politiques se sont emparés de cette réponse sur les punaises de lit. D'abord un petit dessin que je trouve très sympa, de Jules dans L'Humanité, les punaises de lit stars de la rentrée médiatique, et une punaise qui dit à l'autre, je garde la tête froide, les médias vont finir par se lasser, regarde l'Ukraine. On lit Presto, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve le dessin super réussi. Il y a AMG qui prend le train demain et qui nous dira s'il a vu des punaises de lit. Alors est-ce qu'on en fait trop sur les punaises de lit? Débat entre à gauche Pascal Delaunay, parasitologue, entomologiste médical au CHU de Nice et à l'Institut National d'Études et Lutte contre la punaise de lit. Ouais, j'ai vu le sketch de Jimmy Fallon, mais je l'ai pas trouvé très drôle. Si Holoz, j'apprends qu'il y a un Institut National d'Études et de Lutte contre la punaise de lit, quand même. Voilà. Et puis, à droite, Bruno Studer, député Renaissance du Bas-Rhin, qui trouve que non, il n'y a pas de vague médiatique, de vague de panique créée par les médias, et qu'il faut agir et que l'intervention de l'État est indispensable. L'augmentation, dit donc ce parasitologue, des punaises de lit, ne date pas d'hier. C'est une info intéressante. En France, le problème s'est accentué depuis les années 2005-2010. À l'Institut National d'Études et de Lutte contre la punaise de lit, nous n'arrêtons pas de dire que le phénomène progresse de façon exceptionnelle depuis plus de 10 ans. Ce parasitologue-là, il ne dit pas que ce n'est pas important, il dit que ça a commencé il y a bien longtemps en fait, et que peut-être que les médias auraient dû s'y intéresser avant. Le Lot 50, merci pour le deuxième mois. Le buzz médiatique vient notamment du fait que chacun comprend qu'il pourra un jour avoir des punaises de lit chez lui. Hein, c'est ça que... on a compris, tous les foyers sont potentiellement concernés maintenant, ce qui focalise l'attention. Mais rappelons que la punaise de lit ne transmet aucune maladie, elle a plutôt des incidences sur la santé mentale. Ça rend un petit peu fou ces trucs. Voilà. Avoir des punaises met à mal l'état de son logement, de son intimité, ce qui fragilise les gens. Il faut donc une prise de conscience de la part de l'État, dit-il, c'est un problème de santé. C'est pas un problème de transport, il dit, hein. Les punaises de lit dans les trains, les machins comme ça et tout. Non, c'est un problème de santé. Le problème, c'est quand on a des punaises de lit chez soi, voilà, notamment dans son lit. Or, ces derniers jours, le sujet devient transversal. Les élus s'en emparent. Merci beaucoup, Lob, pour le 8e mois. Les élus s'en emparent. Le gouvernement organise une réunion interministérielle. Résultat, tout le monde assure qu'il va s'en occuper. Et personne ne va s'en occuper réellement. Au lieu d'observer le problème dans sa globalité, n'oublions pas de le traiter à la base, c'est-à-dire en se focalisant sur l'occupant et son logement, plutôt que sur l'ensemble des conséquences dans les hôtels, les transports, les cinémas ou les théâtres. C'est intéressant ce que dit ce parasitologue. Il dit non. Le problème, c'est qu'il faut éradiquer les punaises de lit chez soi, à la maison, quoi. La priorité est de s'occuper des personnes qui peuvent être débordées par ce problème, au risque de s'effondrer, de laisser les punaises proliférer à leur domicile. Il faudrait puisqu'il propose. Je ris parce qu'il y a renifleur du pays. Il dit faudrait tout brûler. Non, ce parasitologue dit il faudrait plutôt former les médecins, les pharmaciens, un phénomène qui va s'installer dans le quotidien des Français, ok, et aussi apporter un volet médical à la formation des désinsectiseurs ou des maîtres chiens, puisque vous savez qu'on peut utiliser les chiens pour détecter les punaises. Bruno Studer, député Renaissance du Bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'intervention de l'État est indispensable, que c'est un vrai sujet de politique publique. L'intervention de l'État est indispensable sur ce dossier qui a d'importants enjeux juridiques et économiques. Je suis personnellement incapable de dire quelle est la réalité de l'augmentation des punaises, dit-il, mais une chose est certaine, quand la psychose s'installe, les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Qu'aurait-on dit si le gouvernement n'avait pas pris les choses au sérieux? Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas grand-chose d'intéressant. Il dit, si tout le monde en parle, si ça inquiète tout le monde, eh bien, il faut s'en occuper parce qu'il faut déstresser les gens. Voilà. Vous êtes plusieurs à faire la blague, peut-être qu'il faudrait mettre en place un numéro vert. Ou alors, Holos dit un chèque punaise. Ouais, peut-être, chèque punaise, je sais pas. Qui a eu des punaises de lit, là? À la louche? Récemment. Levez la main, les punaisés, là. Pour l'instant, pas moi, non... moi en 2013, moi j'ai eu il y a longtemps, bien avant que ce soit à la mode, parce que moi j'ai toujours un coup d'avance. Moi mesdames et messieurs, j'ai eu des punaises de lit à... c'était il y a longtemps, voilà, mais bien avant que ce soit tendance, quoi, avant que ce soit hype. Bah ouais, parce que toujours 10-15 ans d'avance, moi. Fioninho, merci pour le prêt. J'en ai eu, mais c'était il y a un moment, me dit Aïe Bombure, voilà, qui était un petit peu en avance aussi, comme moi. En 2017, me dit Ayam Sofia, voilà, là on est sur un stream de qualité, ouais, avec des gens qui ont connu ce phénomène bien avant tout le monde. Never, rien. Ma copine devient parano, oui, Florian, c'est vrai que certains commencent à stresser, ouais. No fake, je me lève plusieurs fois la nuit pour checker que je n'en ai pas, me dira, voyez que ça stresse un peu, hein. Il y a une quinzaine d'années, Monifo Bourdon, voilà, on est sur un stream de gens un petit peu en avance, quoi. Ouais. Je touche du bois, me dit Tomette Ludo. Attention, Tomette Ludo, si tu touches du bois, c'est que tu es peut-être une termite. Donc ça n'est pas beaucoup mieux, parce que ça peut aussi fragiliser les structures des bâtiments. Donc je te vois, petite termite, attention. Ouais. Ok, il y a Renan qui nous dit qu'il a des morbacs, des morpions. Okay, bon, t'es pas obligé de nous dire, Renan, en fait. C'est-à-dire que là, on parle des... T'es pas obligé de nous raconter par rapport à l'intimité, tout ça, quoi. Les morpions, c'est perso, hein. Donc, faut éviter de les partager, d'ailleurs. Mais on est sur un autre sujet, là. Renan. Je kiffe. Ah, ça y est, tout le monde fait la blague. C'est parti. Si on m'avait dit ce matin qu'on aurait un débat sur les morbacs. Ouais. Alors, Nucleus vient d'arriver sur le stream, on est sur les morpions, quoi. Désolé. On va finir par un petit article. Eh oui, c'est un stream pas trop longtemps, c'est un petit stream de 2h, 2h30. Pourquoi? Parce que c'est pas fini. Après, il faut que j'aille bosser sur les sujets de l'hebdo Étienne de demain, quoi. Et que j'envoie toutes les infos à mes invités. Renifleur de paix. Tu sais que je kiffe ton pseudo, merci pour le 22e mois d'abonnement. Fioninho, je ne sais plus si c'est un merci pour le prime. Alors, les amis, un nouveau journal, ça se fête dimanche en France. La Tribune dimanche. La Tribune qui sort le dimanche, incroyable. Donc, moi qui aime la presse écrite, un nouveau journal qui naît, c'est cool. Propriété récente de Rodolphe Saadé, hein, qui est un milliardaire. Le nouveau journal qui sort le 8 octobre vise 30 000 exemplaires. Let's go! 80 jours, pas un de plus. Non, c'est pas une scission du JDD, ça n'a rien à voir, Anas. C'est vraiment un nouveau journal. Voilà. Qu'espère bien qu'il y ait des lecteurs du JDD qui arrivent. Mais ça n'a rien à voir. C'est absolument pas une scission du JDD. C'est un autre projet. Peut-être que le projet a été accéléré par les déboires du JDD, mais ça, c'est autre chose. 80 jours, pas un de plus. Depuis le feu vert de leur nouvel actionnaire, Rodolphe Saadé, donc c'est le patron de la boîte CMA-CGM, c'est les porte-conteneurs, là. Numéro 1 ou numéro 2 mondial, c'est énorme. Les équipes de la Tribune dimanche se sont livrées à un véritable sprint pour sortir en kiosque dans un temps record le premier numéro de leur nouvel hebdomadaire ce dimanche 8 octobre. Dès le premier numéro, il faut que nos lecteurs se disent que la Tribune dimanche est un quotidien généraliste, parce que la Tribune, historiquement, c'est un journal économique, en fait. Hein. C'est un journal financier, économique et financier. Et là, c'est un quotidien généraliste qui va nous parler de tout. Très bonne question de Pete Byrne qui dit « Il nous montre la taille de quoi le monsieur sur la photo ?» Je sais pas. C'est vrai que c'est un peu intriguant. Il nous parle de quoi, là ? À votre avis ? Est-ce que dans le chat, on peut commenter cette image ? Qui c'est le monsieur là ? C'est Jean-Christophe Tortora, je crois. Jean-Christophe Tortora, qui est le président du groupe La Tribune. À votre avis, il nous parle de quoi, là ? Peut-être d'une grosse punaise de lit, me dit Nitroy. Peut-être de son compte en banque. La taille... Oh, vous êtes méchant. La taille du melon d'un politique que je ne vais pas citer. Franck est en mode poète et nous dit c'est peut-être la taille de sa tub. Voilà. Camille est beaucoup plus sympa, beaucoup plus léger, quoi. J'ai pêché un poisson gros comme ça. Voilà. On sent l'enfant qui est en toi, Camille. On sent la légèreté, la pureté de l'âme d'enfant que tu es encore. Peut-être que tu es un enfant, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est mignon, quoi. Tu vois ? Pardon, hein. Franck, sa tub. Et Camille, j'ai pêché un poisson gros comme ça. Pardon, mais c'est un peu plus frais, quoi. Surtout si le poisson vient d'être pêché, forcément, il est frais. La taille de son carnet d'adresse, me dit Neil. Voilà. C'est la taille de sa bouteille d'eau, me dit Tchernosaurus. Voilà. La taille de son avenir, joli. Ouais. Comment ça, il y avait un sous-entendu dans le poisson ? Non, il n'y a pas sous-entendu. Camille a une âme d'enfant. Moi, je dis bravo. Il tient un ballon d'eau de bien invisible. Bravo, Altwick, ça, c'est beau. Voilà. C'est la... Putain, vous êtes déchaînés. Même les modos s'y mettent. C'est la taille des bits d'amarrage de ces cargos. Ok, d'accord, ok. Ça vous fait rire. C'est le mot bit. C'est ça ? Bit. Bit. C'est ça qui vous fait rire ? Sérieux, quoi. C'est dingue, ça. Bon, bah voilà. Donc, on lisait un petit peu quand même, parce qu'on est parti sur autre chose. J'imagine un journaliste très très sérieux dont on aurait dit on lui aurait dit récemment mais il faut que tu ailles voir ce qu'il fait Samuel Etienne là, tu sais, sur Twitch, c'est bien, il vend la presse écrite, il s'intéresse à l'actualité et tu vois et le gars il arrive, tu vois, il dit bon allez, bon, déjà il a réussi à créer son compte, voilà, il a cliqué sur le machin, au début c'est perdu, il est tombé sur des jeunes femmes qui prennent des bains dans des trucs avec des boules là, puis bon il a fini par me trouver, tu vois, et il arrive, ah enfin ça y est, le stream sérieux, et là bit, voilà, et en fait donc il est très déçu, donc j'ai une pensée pour toi qui est venu te perdre ici. Alors dès le premier numéro, il faut que nos lecteurs se disent que La Tribune est donc un quotidien généraliste qui va parler de tout. Argumente de son côté le directeur délégué du titre, Bruno Jeudy, qui est un super journaliste que je connais bien. Bruno Jeudy, il est là à droite. Voilà. Bruno Jeudy. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un journal du dimanche. Alors qu'il s'appelle Bruno Jeudy. Ouais, je sais. C'est bizarre. Bon. Sachant que Bruno Jeudy, c'est un grand journaliste que je recevais notamment dans une émission sur iTélé qui s'appelait N'ayons pas peur des mots il y a très longtemps. Et je le recevais parfois le vendredi, parfois le mercredi. Et je lui faisais la blague, quoi, le pauvre. Mais j'ai honte. Je pense que toute son enfance, il a dû entendre des blagues pourries, claquées au sol. Hé Bruno, t'as vu ? Aujourd'hui, c'est mercredi. Qu'est-ce que tu fais là ? Putain, je lui la faisais à l'antenne. Je lui disais ça. Je lui disais, hé Bruno, qui est avec nous, Bruno Jeudy, alors que pourtant, on est vendredi. Oh, la honte. Voilà, donc j'ai refait la blague. Grand et très bon journaliste, Bruno. Le journal sera vendu 2,40€ avec un tirage ambitieux pour les premiers numéros de 120 000 exemplaires. Le groupe de presse lance une offre à 9€ par mois, en vrai 9€ par mois pour accéder au journal. Le marché de la presse quotidienne dit du 7e jour, alors, ça c'est marrant d'ailleurs parce que c'est un journal qui ne sort qu'une fois par semaine, donc ça devrait être un hebdomadaire, mais en fait on dit que c'est un quotidien parce qu'en fait la proposition. Et vraiment, c'est pas, je vais m'expliquer clairement, un news mag, un hebdomadaire, un magazine hebdomadaire, c'est un magazine qui va revenir sur l'actualité passée de la semaine, une espèce de résumé, et un quotidien du dimanche, c'est un journal qui va revenir sur l'actualité des dernières 24 heures, vous voyez ? Donc, il ne sort qu'une fois par semaine, mais il est dans un format quotidien, ok ? Le marché de la presse quotidienne dite du 7e jour, donc ben, c'est le Parisien Dimanche, c'est le JDD, c'est la presse en région, c'est Ouest France Dimanche, tout ça. Compte aujourd'hui une quarantaine de titres. Le plus puissant en volume reste le régional Ouest France. Hein, Ouest France Dimanche, 398 000 exemplaires en diffusion payée, donc des gens qui ont vraiment acheté leur journal. Loin devant l'équipe Dimanche, 220 000 exemplaires. Le Parisien Dimanche, 155 000 exemplaires. Et le journal du Dimanche, 124 000 exemplaires. Ça, c'est les chiffres 2022-2023. Je dis ça, je dis rien, mais le nouveau JDD, à mon avis, va en vendre beaucoup moins. Personnellement, je me suis désabonné. J'étais abonné, je me suis désabonné. Côté ligne éditoriale, qu'est-ce qu'on aura dedans? Quel sera un petit peu le regard? La Tribune Dimanche sera structurée en deux parties égales. Une première consacrée à la politique, bon, d'accord, à l'international, au business, à l'écologie, et une seconde à la culture, yes, à l'art de vivre et le sport. Moi, ça me hype. Ça me plaît plutôt. Il y a une place pour l'information le dimanche qui est différente de celle qu'on trouve sur les réseaux sociaux ou les chaînes info, assure Bruno Jeudi, qui définit la Tribune Dimanche, que je vais lire avec empressement dimanche, comme un journal ouvert, nuancé et prescripteur. Sur le papier, ça tombe bien parce que c'est de la presse écrite, sur le papier, ça me plaît. Ça me plaît. J'ai même envie de dire, sur le papier, ça me plaît. Ça me plaît. Qui, comme par hasard, est aussi le dimanche. Je n'en peux plus de ce talent. Je n'en peux plus de ce don de jongler, de jouer avec les mots. Tu tires une idée, hop, tu fais un petit nœud, tac. Ça me plaît, la Tribune, dimanche, et ça tombe bien. Ça me plaît aussi le dimanche. Je me fatigue. À un moment, cette brillance, ce brio, cette capacité à manier les idées, les mots, ça m'épuise, c'est presque trop. Ah, ça va vous sinon? Qu'est-ce que je suis con, je suis désolé. Bon, vous avez oublié l'horoscope. Allez, c'est parti, horoscope! Allez, c'est parti, horoscope. Alors, les nouveaux, vous n'allez rien comprendre. L'horoscope, c'est quoi? L'horoscope, c'est quand je lance le concours de l'horoscope, le premier, la première à me donner son signe astrologique, eh bien je lui lis son signe astrologique. C'est une dinguerie, on est fou. Est-ce qu'on a le Parisien de demain? Non, c'est encore le Parisien de ce matin avec la grosse claque dans sa gueule du PSG 4-1 contre Newcastle. On va sur la page horoscope, il faut aller très très vite, c'est tout à la fin. Et je vais, avec l'aide des modérateurs, voir celui qui m'a donné le plus rapidement son signe astrologique dans le chat. On n'y croit pas, ça nous fait marrer. Alors... C'est poisson. Eh, renifleur de paix, les poissons. Les poissons, ils gagnent pas souvent, les poissons. Hein. J'ai remarqué ça, les poissons, vous n'êtes pas des rapides. C'est pour ça d'ailleurs que vous vous retrouvez souvent sur l'étal du poissonnier. Vous avez remarqué? Les poissons, c'est pas les plus rapides de l'horoscope. Je sais pas pourquoi. Poisson, on zoom. Comme ça, Capricorne et Verseau, vous pouvez lire aussi. Cœur, les poissons. L'amitié a une place majeure aujourd'hui. Célibataire, vous entrez dans une période éblouissante. Wouhou ! Réussite. Accordez un minimum de temps à vos interlocuteurs professionnels. Forme, détendez-vous. Ok. Et puis en dessous, on voit un truc que je ne vous lis pas souvent qui est le baromètre de l'amour. Le baromètre de l'amour. J'adore. Donc c'est un peu le baromètre de l'amour pour certains signes. Alors balance, la foi en votre couple est établie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va, quoi. Voilà la phrase, quoi. La foi en votre couple est établie. Tu peux pas juste dire les choses bien? Genre, je sais pas, tu pourrais dire un truc un peu plus simple, genre... ça va bien dans ton couple! Ouais. Ah oui, il y a ma grosse qui dit « Fini le tour, les tromperies. » Ok. Et Capricorne... Le baromètre. Non, je suis pas trop en mode Barry White. Là, faut que je le mette en une petite voix un petit peu sexy. Là. Vous avez vu le petit regard là? Le petit regard un peu. Le petit mouvement là? Ça, c'est des années d'entraînement. Vous avez vu ça? Un petit peu sexy là. Hop, les lèvres qui s'ouvrent très légèrement et le regard qui pivote. Ouais, un peu comme un poisson en fait. Le baromètre de l'amour. Ah, pas mal ça. Soyez lucides, les Capricornes. Les Capricornes, je vous le dis tout le temps quoi. Soyez lucides les Capricornes, c'est vrai, vous êtes toujours un peu là, non, un moment calmez-vous quoi. Soyez lucide et méthodique si vous devez faire une situation ardue. Pourquoi vous me parlez de, de l'anniversaire d'Alessandra Sublet? Ah, c'est son anniversaire. Bon, super. Ok, n'oublie pas de lui souhaiter, me dit Tsekin. Oui, enfin, on n'est pas souhaité non plus d'anniversaire à tout le monde, sinon, hein. Pourquoi pas Kate Winslet plutôt? Oh, la bonne blague d'écrivain dans le chat. Les capris, les capricornes, c'est fini. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Et dire un jour. Excusez-moi, c'est une belle chanson d'Hervé Villard. Alors, bon, c'était bien ce matin. Bon, moi, je vais aller bosser après. Maintenant, je me suis bien amusé avec vous. On a rigolé. Et je vais maintenant travailler sur mon petit ordinateur pour envoyer... tous les thèmes d'actualité, de débat à mes invités. Voilà. Pour demain soir dans l'hebdo Étienne. En fait, pas du tout. Je suis en train de vous raconter n'importe quoi. Je suis crevé. Je vais aller rejoindre ma petite famille. Je vais embrasser les enfants. À mon avis, ils sont endormis. Et je vais rejoindre mon épouse. Et je vais me taper un petit Netflix. Je l'ai bien mérité. La semaine a été chargée et compliquée. Et donc, je vais plutôt me faire un petit Netflix. Et puis, je vais mettre le réveil demain matin à 5h pour faire ça. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. On va faire un petit raid quand même. Hein. Je voudrais vous remercier d'être avec moi le soir sur des heures qui sont un peu inhabituelles. Voilà. Je regarde quoi? Je regarde il y a Tooth dedans. Pas Bluetooth. Le petit garçon qui a des petites cornes, j'adore, c'est la saison 2. Je suis en retard, hein, ça fait longtemps. Tooth. Sweet Tooth, voilà. J'avais adoré la saison 1, je suis sur la saison 2. Je l'adore ce petit garçon là avec des petites cornes là. Je vais chercher mon ordinateur, bougez pas. Allez, c'est partout. C'est partout, c'est parti. Je vous laisse me proposer dans le chat des noms de streamers, de streameuses qui sont en live. Et on fait un raid, ok? Alors, je vais vous mettre une mini musique. 2 minutes de musique, 2 minutes de pub et on se retrouve dans 2 minutes pour un raid. Ok, je vois déjà des propositions. Ok, et je vous dis à tout de suite. En musique, je vais vous mettre ça. Non, pas ça. Ça. Yes. À tout de suite. Bougez pas. Ouais. J'ai ma voix de lover. Bougez pas. On the outside, looking in. I really wasn't sure what I was getting. We'll be right back. J'arrive. Ok, j'ai trouvé. Bon, c'était très difficile de choisir parce qu'il n'y avait que des propositions des gens que j'aime bien. Il y avait Douagby qui faisait un truc sur le rugby qui était génial. Il y avait David Dufresne qui était en live. Il y avait Antistar qui faisait un truc hyper sympa sur l'univers de Mario, d'après ce que j'ai compris. Mais là, je vois qu'il y a Rayou. Il y a mon ami Étoile qui est en live. Sans Étoile, il n'y a pas Samuel Etienne sur Twitch. Je lui dois tout, en vrai. Voilà. Et c'est un mec terrible. Il est en live actuellement. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé lui faire un petit coucou. Saluez-le de ma part. Je vous souhaite une très belle soirée. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. On se retrouve demain soir dans l'Hebdo Étienne à 20h. On va se régaler comme d'habitude. C'est parti, je charge le raid pour Rayou. Faites-lui un petit coucou. Il le mérite, c'est juste un gars extra. Un gars extra, une phrase qu'on prononçait au 18e siècle. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne soirée les amis. Je vous dis à demain, 20h. Et si vous n'êtes pas là demain, ça va chauffer. Mais à un point, ma vengeance sera terrible. Salut.